Quel est le quotidien d'un autre podcasteur running et trail que vous écoutez peut-être déjà? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport et surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Vous avez raconté tout ça dans la première saison du podcast et aussi dans la deuxième. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que mes conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est bien entendu dans le descriptif de l'épisode. Et aujourd'hui, comme je le disais en intro, j'ai décidé d'inviter un autre podcasteur du monde du running. Nous partons une fois encore en Bretagne. Bah oui, il y a un truc avec la Bretagne. Et cette fois, c'est François Hinault, créateur de l'Instant Outdoor, dans lequel il reçoit de nombreux sportifs d'endurance, de trailers, courses, un petit peu dans tout le domaine, et puis aussi des entraîneurs. On a souvent des invités communs. Et il m'avait lui-même d'ailleurs invité il y a bien longtemps déjà dans son podcast pour parler de mon parcours. Ensemble, nous en parler justement de son parcours à lui, ce qu'il a mené des pompiers de Paris au podcast avec une étape intermédiaire, et aussi des idées qu'il aime explorer, comme cette marque de bière qu'il avait lancée, ou son idée de tasse pour trailer, et aussi de cette course qu'il organise, et comment il organise ça, comment ça se passe, comment est venue l'idée, comment il arrive à organiser, et un petit peu toutes les à côté un petit peu, tout ce que l'on voit pas. Et puis malgré ses idées et ses activités, vous allez découvrir aussi son entraînement, ses différents projets sportifs, et vous allez constater qu'il a un programme assez chargé, hein. J'ai appelé ça un petit peu le François Hinault Tour, parce qu'en fait il va aller un petit peu explorer diverses régions. Nous voilà donc partis pour une belle sortie longue avec François Hinault. Allez, c'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour François.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va super bien, je suis très content de passer sur Kilomètre 42 et puis ça fait un petit peu bizarre, hein, je t'avoue, d'être de l'autre côté du micro, mais ça va super bien, j'ai enregistré ce matin, mais mis à part que là, tu vois, il fait moche en Bretagne, alors certains vont dire que c'est du classique, c'est du normal, mais c'est pas vrai, hein. Tu le sais bien.
Bah, moi, je ne critique jamais la météo bretonne depuis que je travaille avec des marques bretonnes. Et en fait, il y a une grosse part de mon audience qui est bretonne. Donc, je ne dis plus jamais de mal de la Bretagne. Je ne dis plus jamais qu'il pleut tout le temps. Et je ne dis plus jamais que je préfère le beurre doux au beurre salé. Mais voilà, j'ai appris un truc à dire ça. Il y a d'autres choses, il faut dire, pour bien se faire voir par des bretons.
Bah écoute, tu peux te dire que le Mont-Saint-Michel est à nous, que Nantes, c'est pas la Bretagne. Tu peux rentrer dans plein de sujets comme ça qu'on adore. Mais... Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la Bretagne est une très belle terre sportive et culturelle.
Ouais. Et est-ce que mur de Bretagne, c'est un vrai mur ou pas?
Je crois que j'y suis jamais allé, donc je vais pas pouvoir t'aiguiller.
Non, mais je dis ça parce que j'ai écouté un épisode tout à l'heure où tu parlais de vélo dans ton podcast et ça m'intéressait particulièrement. Et maintenant, chez tu fais du vélo. Je disais, tu sais, moi, le Tour de France, mur de Bretagne, l'étape et tout, attention, il y a un truc, etc. Et quand tu regardes à la télé, ça paraît pas très impressionnant sur l'instant. Alors, les Bretons me diront, hein, franchement, on va pas critiquer là-dessus. Bref, alors, moi, je te connais bien, ça fait un bout de temps que je suis, que j'écoute ce que tu fais et tout. On a déjà échangé, mais et puis je suis déjà venu chez toi, je sais même plus quand.
Bah ça fait un moment maintenant, hein, ça, le temps passe et je pourrais retrouver le numéro de l'épisode, hein, si j'arrive à faire un petit peu de multitask.
Mais je mettrai en lien de l'épisode, je retrouverai, je mettrai en note comme ça. Je sais même plus de quoi on avait parlé exactement, parce que à force le temps passe, on évolue les uns les autres. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots déjà, parce que t'as un parcours particulier, j'ai envie de dire.
Ouais, un petit peu, particulier, atypique, audacieux, on peut y trouver plein de mots. Alors, pour me présenter, vous l'avez compris, je suis breton, je suis marié avec une femme merveilleuse que j'aime depuis 15 ans, et j'ai deux enfants qui sont aussi fabuleux, l'un qui vient d'avoir tout juste 6 ans, et une pitchoune qui a 2 ans bientôt. et qui grandit aussi très très vite. Et il y a 6 ans bientôt, quand mon fils est né en fait, j'ai décidé que mon mode de vie n'était pas en accord avec le mode d'éducation de mes enfants que j'avais envie d'avoir. Et quand on a dû le laisser chez la nounou, et ben ça a été un crève-cœur pour moi. Et j'ai décidé à ce moment-là qu'il fallait que je vive de ma propre activité pour avoir plus de temps. Et du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle assez audacieuse. Mais aujourd'hui, alors évidence rétrospective, je ne regrette absolument pas du tout. Et je fais aussi pas mal de sport. Ouais. Dans la présentation, quand même, c'est important, ça. Ça me définit bien, quand même.
T'étais pas en Bretagne aussi, non ? T'étais toujours été en Bretagne ?
J'ai toujours habité en Bretagne, alors tu vois, ça va peut-être être un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vécu 5 ans à Nantes parce que ma femme faisait ses études là-bas, et puis à cette époque-là, j'étais pompier de Paris, et ça m'arrangeait bien en fait d'être à Nantes, parce que c'est beaucoup moins loin de faire Nantes-Paris que Paris-Quimper.
Mais j'étais resté sur cette idée-là que tu étais pompier de Paris. C'est pour ça que je te demandais si t'étais, où tu étais passé, parce que pompier de Paris, c'est pas à Nantes, c'est à Paris.
Ouais, effectivement, mais j'ai travaillé à Paris, mais je n'y ai jamais habité.
D'accord.
Je passais ma vie dans le train, et comme beaucoup de pompiers de Paris, hein, il y en a beaucoup qui font ça, qui travaillent là-bas, mais qui rentrent chez eux, peu importe d'où ils viennent. Il y en a qui font pas mal d'heures de train dans le mois.
Mais alors, ça veut dire quoi ? C'est parce que tu dors à la caserne, et puis tu rentres après quand tu as du temps libre ?
C'est ça, en fait. Alors, moi, j'y étais de 2007 à 2012. Donc, ça date un petit peu, et les modalités de garde changent et varient et s'adaptent avec le temps. Mais à l'époque où j'y étais, on faisait des gardes de 24, 48, 72 heures, et ça pouvait aller jusqu'à ce qu'on appelait 72 réserves. Donc, ça veut dire 72 heures plus une journée. Et ensuite, à la suite de ça, tu avais un repos qui était de 24, 48, 72 heures. Et donc, tu pouvais rentrer chez toi. Quand tu avais un repos 24, évidemment, ça paraît compliqué de faire l'aller-retour dans la journée. Mais quand tu rentrais pour 48 heures, 72 heures, c'était largement faisable. Et donc je passais pas mal de temps dans le train comme ça à faire ces allers-retours. Ouais.
Ah, d'accord. Bah, tu vois, bah, c'est bon à savoir. Hein, pour ma culture personnelle, tu vois, je me posais la question. Et tu courais à l'époque ? Bah, il faut forcément être sportif pour être au pompier de Paris.
Ouais, alors en fait, je me suis mis à courir quand j'ai préparé justement les concours de pompiers de Paris. Mais à cette époque-là, j'étais plutôt et d'ailleurs, ça a été vraiment ce qui a caractérisé mon enfance. J'ai toujours été bon en sport, mais j'ai jamais été excellent dans aucun sport. Et ça, c'est quelque chose. J'ai adoré tous les sports. J'ai fait du badminton, j'ai fait du tennis de table pendant plusieurs années. J'ai fait du foot pendant plusieurs années. Et en fait, à chaque fois, ça a été des bons moments. Mais la course à pied, elle est venue vraiment que plus tard. Et d'ailleurs, pendant la période pompier de Paris, j'étais même pas hyper intéressé par la course à pied, parce que j'étais intéressé plutôt par ceux qui font de la musculation. Ils vont peut-être connaître cette méthode, qui est la méthode Laffey. Qui privilégie le renforcement musculaire avec le poids de corps uniquement, donc traction, pompe, dips, toutes ces choses-là. Et en fait, j'avais envie de prendre en masse musculaire, parce que j'ai toujours été très maigrichon, limite à complexer, hein, pendant l'adolescence. Et en fait, quand tu vas courir, et ben ça fait maigrir. Donc, j'étais pas hyper fan de la course à pied à cette époque-là de pompier de Paris, mais c'est venu après.
Bon, ce qui veut dire que t'es pas obligé d'être un gros balèze plein de muscles pour être pompier de Paris non plus.
Non, d'ailleurs, vaut mieux pas, parce que quand t'es très lourd, c'est compliqué. Après, il y a cette fameuse épreuve de la planche. Faut quand même être capable de monter dessus, et qu'on imagine. Enfin, c'est difficile d'être bodybuildé et d'être capable de monter dessus. Et même après, pour trimballer les équipements, vaut mieux être un petit peu bon, endurant, bon partout, mais excellent nulle part. Donc ça me correspondait plutôt bien. Il y a des épreuves sportives assez diverses qui sont demandées. Donc non, on ne demande pas d'être un champion du monde de développer couché.
Ouais, c'est drôle, parce que l'image que t'as dans les films, les pompiers sont toujours super baraqués, des gros muscles, des gros bras, etc. et tout. Mais dans la réalité, en fait, ils sont plus normaux, j'ai envie de dire.
Ouais, d'ailleurs, ça m'a toujours fasciné, ce mythe du pompier et la capacité que certains avaient pendant les différents bals des pompiers du 14 juillet à trouver des nanas qui étaient attirées par eux alors qu'ils étaient absolument infâmes. Mais à partir du moment où ils avaient la tenue, ça séduisait absolument tout le monde. Et comme quoi, hein, l'habit ne fait pas le moine. Mais là, pour le coup, ça a aidé quand même pas mal certains, hein, faut le dire.
Bon, bah écoute, c'était une parenthèse. Non, mais après, en plus, il y a le camion rouge. Alors, forcément, le camion rouge, ça fait toujours. J'ai eu quelqu'un dans ma jeunesse, mais elle dit quand t'as une voiture rouge, c'est toujours plus facile. Bon, je vais me vérifier, j'ai vu une voiture rouge et puis c'était pas mon truc. Mais toi, en plus, t'as avec l'uniforme et le camion rouge. Alors, bon, écoute, peut-être que c'est ça. On sait pas, on saura jamais. En tout cas, moi, je saurai jamais parce que j'ai jamais été attiré par les trucs en uniforme, les pompiers, les militaires, les trucs comme ça, etc. C'est jamais mon truc. Donc, moi, j'aime bien mon uniforme. Et puis, on a le même uniforme aujourd'hui. On a mis la casquette. On a la veste, on est à la cool à la maison, enfin voilà quoi. C'est franchement, c'est cool comme vie.
C'est indescriptible, comme j'y reviendrai pour rien au monde. Des fois, je m'amuse comme ça à en prendre conscience et à me dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Et je l'ai fait récemment là sur LinkedIn. J'ai partagé ma semaine que j'avais passée et je me suis dit mais quelle chance et comment j'aurais jamais imaginé en fait que tout ça allait être possible il y a quelques années. C'est bien en fait des fois de faire le point comme ça et puis de prendre conscience des choses parce que bon bah, la vie avance, on fait nos petites choses et puis en fait tu te dis mais il y a 5 ans c'est exactement ce que je suis en train de vivre que j'aurais vraiment aimé vivre. Alors on est toujours rempli d'objectifs, on a toujours envie d'avancer, toujours envie d'autre chose, toujours envie de plus, mais des fois savoir se contenter de ce qu'on a et puis d'en prendre conscience surtout, ben ça fait du bien, ça fait du bien quand même. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, pour revenir sur l'uniforme, aujourd'hui ça paraît. D'ailleurs, j'étais dans une chambre parce que oui, on a des chambres pour pouvoir dormir quand il n'y a pas d'intervention la nuit, etc. C'est souvent des chambres collectives et dans notre chambre on nous appelait la CGT. Parce que était un petit peu râleur, un peu, enfin tu vois l'image de la CGT, et en fait ça, ben plus j'ai avancé dans ma vie professionnelle et plus ça a été compliqué pour moi d'avoir un patron. Alors tu vois, tu parles avec l'image du militaire qui fait absolument tout ce qu'on lui dit sans sourciller.
Alors c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai pas dit. Je l'ai pensé, tu lis très bien dans mes pensées, je l'ai pensé, j'ai tout fait pour éviter l'armée et tout, mais je l'ai pas dit. alors sincèrement, je ne dis rien sur les militaires en fait, et chacun a un mode de pensée, etc. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est toi qui l'as dit, et c'est toi qui connais le milieu, alors tu vois, là au moins là-dessus t'assumes, c'est François.
Mais c'est absolument ce qu'il faut en fait, il n'y a pas le choix, parce que si tout le monde commence à réfléchir quand tu pars sur un champ de bataille ou sur une intervention, si tout le monde commence à donner son point de vue, son petit avis... sans avoir pris tout le recul de la situation. Voilà, il faut être... faut avoir cette compétence et cette capacité à faire ce qu'on te dit aveuglément et à faire confiance à quelqu'un qui, de fait, sans que tu l'aies potentiellement toi-même vérifié, sait mieux que toi ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est une compétence à avoir. Et moi, j'avais du mal avec ça, de faire des choses bêtement comme ça, sans que je comprenne pourquoi, sans avoir mon mot à dire. Après cette période militaire, quand je suis rentré dans une entreprise plus classique, ça a été compliqué aussi. C'était une très grande entreprise française.
C'est une entreprise avec un nom de fruit, non?
C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi.
non, mais vraiment. Non, mais parce que si je te pose la question, c'est presque intéressé. C'est que tu connais pas des gens encore qui sont dedans, qui pourraient avoir des dossards pour le marathon de Paris olympique.
Non, j'ai complètement coupé avec avec cette boîte. Et en fait, c'est une très bonne boîte qui a connu quelques soucis à une période de l'année, de son histoire. Mais en fait, aujourd'hui, c'est une très bonne boîte, sauf que c'était pas une entreprise faite pour moi. Et je m'y retrouvais pas dans voilà. Je me disais, je veux pas faire ça toute ma vie, quoi.
Non, mais je te comprends parce qu'il y a la hiérarchie dans ces grosses boîtes. Moi, je travaillais en collectivité locale et j'avais, et je te garantis, hein, parce que cette époque-là où ça fait beaucoup de nettoyage dans la fameuse boîte, ils faisaient partir tous les fonctionnaires et on les récupérait dans la région. J'en avais au moins 30 collègues qui venaient là-bas, alors qui avaient eux, pour eux, alors ils se mariaient, les collectivités locales, c'était vraiment leur même univers. C'était vraiment la structuration, les hiérarchies, etc. Sauf que moi, je connais ce que tu dis, c'est-à-dire que la hiérarchie, la structure, truc, on bouge pas, etc., ça m'allait pas du tout. Donc, j'en suis parti avec perte et fracas, avec des bonnes migraines et des bonnes séquelles, on va dire. Mais voilà. Ah, maintenant, j'apprécie, tu vois. 12 ans après, j'apprécie le confort. Mais c'est vrai que maintenant, quand t'es tout seul, t'es ton propre patron, tu te trouves pas chiant des fois en tant que patron quand même?
Bah écoute, comme et ça c'est un manager que mon premier manager que j'ai eu qui m'avait mis cette image en tête et je la trouve très bonne toujours maintenant. Quand t'es dans une grosse boîte, en fait, c'est comme si t'étais dans un paquebot. Ça met longtemps à tourner, mais par contre, ça peut t'emmener faire le tour du monde. Quand t'es tout seul à ton compte, et ben t'es dans un zodiaque. Alors ouais, c'est facile de tourner, de faire des virages à 360 et puis de t'amuser, de prendre les vagues, etc. Tu t'éclates. Mais par contre, s'il y a une grosse vague, et ben c'est toi qui vas te la prendre et puis il y a personne pour venir t'aider et puis tu vas pas pouvoir aller très loin avec ton petit zodiaque. Donc là où je peux me trouver chiant, c'est quand j'ai toutes ces idées qui viennent dans ma tête et puis plus tu parles à des gens, plus tu as des idées et plus tu as des idées, plus tu as envie de les faire et puis tu as un petit peu des fois ce syndrome de l'objet qui brille, hein, tu connais bien. tu as toujours envie de faire plein de choses. Ah mais ça c'est génial, il faut trop que j'aide ces gens à faire ça, etc. Et puis en fait... t'as le feu sacré, tu dis ah j'y vais et puis en fait au bout d'un moment tu te calmes et puis tu te dis mais pff, allez encore un projet non allez on arrête et puis en fait et tu te dis allez j'arrête tout, qu'est-ce que je me reconcentre sur le principal et puis après ça revient et puis tu te retrouves avec encore 5-6 trucs sur les bras et puis tu te bosses des fois 22 minuit et stop on arrête.
C'est comme ça que tu t'es retrouvé sur les marchés, sur les stands à vendre de la bière que tu faisais et tout là.
Exactement. En fait, mais tu vois, ça c'est le genre de projet. Je me suis passionné pour. En fait, j'ai eu une beaucoup ont eu ça en cadeau, tu sais, pour faire ta bière tout seul, ouais, avec ta dame Jeanne, etc. Mmh. Et je me suis retrouvé à faire ça avec mon beau-frère et puis un ami. Et on a passé un moment de dingue. On a bu plus de bière qu'on en a fait parce qu'au final cette bière-là on l'a achetée. Mais on a passé un super bon moment. Et puis après j'ai creusé le sujet, je me suis intéressé. Puis j'ai passé un bac S, donc tu vois, j'ai avec une spé chimie. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit truc en moi qui fait que j'aime bien en fait. Faire ce produit-là et puis je me suis dit allez on va pousser le truc, on va demander à Florent Beaufils de nous faire une petite étiquette et puis on va aller voir une petite brasserie, tiens comment tu fais ton truc. J'ai visité les locaux, je découvrais un monde. Après bah tu découvres le milieu des salons, tu vas voir les amis Leïla et Pascal d'Apiron et puis tu leur dis bah comment vous faites, puis tu découvres en fait un monde, t'apprends plein de choses. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, même si tu vois, je remplissais mon camion de mes bières, je repartais d'événements. La plupart du temps, je revenais à sec. J'avais plus rien. Ça marchait super bien. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça tout le temps?
Ouais.
Et en fait, la réponse, elle était non. Et en fait, ça m'a éclaté. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens top. Mais en fait, je suis capable de monter un projet comme ça et de l'abandonner aussi vite que je l'ai monté.
Puis j'ai envie de te dire, vendeur de bière pendant que les autres courent, enfin, c'est, tu vois, moi j'ai vu Léa Pascal aussi sur le 24 heures, c'est s'occuper des trucs à droite à gauche. Donc si toi t'aimes courir et tu vois tous les autres gens à côté qui courent et toi que t'attends sur ta table en train de vendre de la bière, bon, c'est sympa parce que t'es dans le milieu, mais quand t'aimes courir, tu cours plus quoi, finalement, tu regardes les autres.
Exactement. Et puis, faut revenir à ce que je disais au tout début de notre échange, c'est que la raison profonde qui m'a fait mettre à mon compte, monter mon activité, etc., c'est quand même de passer plus de temps avec mes enfants, avec ma femme, de pouvoir partir en camion, d'un camion ménager, de partir quand on veut, si on a envie de se dire, bah tiens, demain, on va à tel endroit, on va pique-niquer, il fait beau, puis on revient que le soir. On le fait en fait, et réellement, on le fait. C'est pas juste un camion qui nous sert pour les 3 semaines de vacances l'été, quoi.
Ouais.
Et en fait, d'avoir cette liberté de se dire le samedi soir, bah tiens, demain matin, on y va. Si tous les dimanches matins, en fait, t'es sur un stand, bah en fait tu peux plus quoi. Et puis bah c'est comme faire les marchés. Moi j'admire hein, tous ces gens qui font les marchés, qui sont tous les week-ends à se lever à je sais pas quelle heure pour aller vendre leurs produits qu'ils ont fabriqués la semaine et qui enfin voilà, moi c'est des gens que je retire mon chapeau parce qu'ils font un métier qui est dur quoi. Et malheureusement qu'ils gagnent pas toujours vraiment leur juste valeur. Mais voilà, c'est moi j'étais pas capable de faire ces sacrifices de vie familiale, surtout le week-end, quoi.
Mais alors, moi, tu sais, je vais te dire, je te comprends tout à fait, parce que quand je les vois, moi, tu vois, mon magasin de matériel de running, là, sur toutes les courses, tu vas le trouver, tous les week-ends, tous les samedis, le dimanche, le vendredi, là, ce vendredi, ils commencent à distribuer les dossards, c'est bon, on va dans le magasin, ils y vont pas, le samedi, ils ont leur stand, le dimanche, ils ont le stand, il est à droite, toujours sur les courses, à droite, à gauche, et puis des fois, ils sont un petit peu loin, des fois, il y a une heure de route, il faut tout replier, déplier, etc. Moi, franchement, c'est vrai que quand je vois le truc me dire, moi, toute la semaine, j'enregistre des podcasts, j'ai des coachings, je fais des contenus, quelques programmes de formation en ligne, mes vidéos pour la communauté. Et après, derrière le week-end, j'ai toute ma liberté. C'est clair que je peux pas leur envier le truc. Mais je les remercie d'être là. Tu vois, c'est le truc. C'est comme les... Toi, tu es organisateur de course, on en parlera tout à l'heure. Mais les organisateurs de course, on est plein à se dire. Et moi, le premier, c'est cool qu'il y ait toutes ces courses organisées. Mais il y a un moment donné, j'aimerais pas être tout le temps, toi, tous les week-ends, sur les courses, tout ce que ça demande comme organisation. Pour ça, je dis toujours merci. Alors, moi, tu sais, les bénévoles sur le long des courses. Bon, toi, t'as pas trop de bénévoles sur ta course que t'organises, on en reparlera, mais, tous les bénévoles que je vois, ils me disent, allez, courage et tout. Je leur dis, non, mais merci à vous d'être là. Tu sais, un grand merci. Et donc, je te remercie toi aussi par rapport à ce que tu fais, organisateur. Tout à l'heure, j'ai écouté ton podcast, donc je vais te remercier en tant que podcasteur. Tu m'as occupé mes oreilles sur mon petit gravel, tu vois. C'est intéressant, tu vois, de se replacer dedans et tout. Je me suis remis dans l'ambiance, tu vois. Je me suis dit, mais François, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, tu vois, pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Mais c'est vrai que quand t'as choisi le mode de vie comme ça, d'être avec tes enfants, c'est vrai que je comprends. Et à la limite, tu vois, j'ai presque pas compris pourquoi tu t'étais mis à vendre de la bière sur les marchés. Vendre de la bière, oui. Mais aller sur les courses, tu vois, je dis, quand même, c'est vrai que ça doit être sacrément prenant, quoi.
Bah, c'est vrai, hein. C'est des fois, tu vois, je me laisse un petit peu emporter par le projet, comme ça, et puis tu en fait, c'est ça, tu fais une fois, et puis tu te dis, en fait, c'était cool, on a passé un bon moment, il y a des gens qui sont. En plus, tu vois, en tant que créateur de contenu, je suis souvent sur les réseaux, et puis les rencontres avec les gens, c'est pas tout le temps quoi, et puis du coup ben les gens qui te suivent, ben ils sont contents aussi de pouvoir te voir en vrai, tu vois, t'as des petits commentaires, ah t'es plus grand, je t'imaginais pas comme ça. Puis, tu vois, t'as pas mal de petites remarques comme ça, enfin
vas-y, attends stop, t'as eu quoi comme remarque, vas-y, non parce qu'après moi je les partagerai, les t'as eu quoi comme remarque?
Ah, le plus grand, t'es plus grand, c'est le plus classique,
ouais.
Et non, il n'y a que celui-là quasiment. Si, ouais. Quand je cours, tu filmes pas aujourd'hui, parce que peut-être que les gens aussi s'imaginent que quand tu filmes, t'es tout le temps en train de filmer toute la course et puis qu'après tu découpes, alors que c'est des toutes petites séquences d'une minute. Et voilà, ce genre de petits messages, mais franchement, c'est toujours ultra bienveillant et j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que. Après je suis pas non plus dans une thématique qui est ultra polémique, donc il y a peut-être qu'il y a des gens qui me détestent, mais non, j'ai pas l'impression quoi.
Il y a pas de gens qui peuvent te détester par rapport à ce que tu fais, mais moi tu vois, j'ai eu un truc, je vais en raconter deux, parce qu'un jour on revenait avec ma fille, on avait acheté du pain, et puis je vois un petit garçon et tout qui avait une grosse baguette, ma fille elle dit regarde papa, le garçon il est rigolo et tout, et puis il y avait sa maman à côté, la maman elle me regarde, elle me dit, puis tu sais, elle me regarde, puis elle tilte. Puis elle part et puis elle revient, elle me dit, vous êtes pas le monsieur qui court et qui court tous les jours, qui fait des grimaces sur les chemins et qu'on voit sur Instagram? Je dis oui, je cours tous les jours, oui, je tire la langue sur mes photos et tout. Je dis, ça y est, catalogué. Donc maintenant quand je la croise dans la rue, il me fait toujours son petit sourire. Et j'en ai eu deux trois des remarques, mais qui sont drôles. Et c'est les gens, l'autre jour je vais à une démonstration, on me dit, ah bah t'es pas sur ton gravel aujourd'hui, puis t'as mis des baskets aujourd'hui, parce qu'à force de courir à pieds nus en sandales, tu vois, j'ai des trucs, mais c'est drôle, mais c'est toujours drôle. J'ai jamais eu de personne. J'ai eu, franchement, dans l'histoire du podcast, il y a très longtemps, mais je vais pas remettre le truc dessus, un commentaire, on a eu des commentaires super négatifs. Et depuis, en fait, la personne, je pense qu'elle a vu que je courais, tu vois, tout le temps, qu'on courait, qu'on s'entraînait, et qu'au bout d'un moment, il y a le premier aspect négatif qui est passé. Et maintenant, j'ai même des j'aime sur Strava, tu vois. Donc, ça veut dire que ça, on arrive à faire changer les gens. Et je pense que quand ce que tu fais, il y a pas de truc polémique. Tu donnes la parole aux gens, tu les aides, tu accompagnes, tu t'interviews. T'as combien d'épisodes de podcast? T'en as fait combien d'épisodes?
Je suis à plus de 250 là.
Ouais, donc franchement, et qu'est-ce que tu veux que les gens ils critiquent en tout? En plus, tu fais même pas de belles blagues. Enfin, à un moment, tu faisais des lives en courant. Tu les fais plus, tes lives en courant? Ou c'est que j'ai essayé de louper?
Non, je d'ailleurs, ça c'est un sujet, tu vois, ça fait 6-5 ans et demi maintenant que je crée du contenu sur les réseaux et j'essaye de me déconnecter un petit peu des réseaux parce que ça prend un temps fou, c'est une énergie mentale qui est incroyable, on a l'impression que c'est du spontané, que enfin ça l'est, mais en fait t'es tout le temps en train d'y réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je vais publier. Ça, j'ai publié un contenu par jour pendant plus de 5 ans et enfin ça fait beaucoup quand même, hein. À un moment j'étais à une vidéo YouTube par jour pendant plusieurs mois. Enfin, voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie et j'essaie de réduire un petit peu mon temps de consommation. Depuis le début d'année, j'ai mis un timer sur mon téléphone qui me limite à 15 minutes de consultation de réseaux sociaux, tout confondu, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tout ça.
Attends, 15 minutes par jour?
15 minutes par jour, ouais. Donc, ça veut dire que je fais une story de 2 minutes, ben voilà, il me reste plus que 13 minutes pour tout le reste. En fait, du coup, je limite le nombre de stories que je fais. Alors, je l'ai coupé une fois depuis, tu vois. On m'a demandé, mais t'as réussi à ne jamais couper? Parce qu'en fait, c'est ma femme qui a le code. Parce que je l'avais essayé avec moi qui avait le code, mais je le mettais tout le temps pour sauter la limite, ça sert à rien. Et je l'ai sauté une fois quand j'ai animé une conférence. Parce que je voulais faire des petites stories, etc. Partager un peu de contenu, mais là, c'est pour cool, c'était vraiment pro. Et voilà. Donc, je l'ai sauté une fois, mais depuis début janvier, je m'y tiens.
Ouais. Mais tu sais, alors ça, c'est un bon truc, parce que l'autre jour, j'ai vu une story passer. Et puis, si elle écoute le podcast, c'est Jeanne, elle se reconnaîtra, qui disait que elle comprenait pas. Elle disait, il y a des gens, ils disent qu'ils vont s'entraîner, qu'ils vont courir, qu'ils vont faire des entraînements et tout. Mais toutes les deux minutes, ils sont en train de faire des photos, sont en train de poser le téléphone par terre, de courir devant leur téléphone. Et qui se disaient, mais comment les gens peuvent dire qu'ils s'entraînent tout en faisant les photos, les vidéos? Alors, on a eu une petite discussion en privé en disant, bah, je dis, moi, il y a des jours où je fais ça, puis il y a des jours où je cours vraiment, mais il y a des jours où je courotte, hein, où je planifie. Moi, je travaille en séance clé. Je dis, il y a deux séances clés où là, le téléphone, il est dans la poche, mais je le sors pas trop. Et puis les autres séances sont plus cool, où là, je vais faire les fameuses vidéos. Alors, t'as l'impression que je filme tous les jours. En fait, je fais des photos tous les jours. L'autre jour, il y a un jour, j'ai oublié de faire une photo. Alors, depuis que je cours, tu vois, je crois que c'est la première fois que j'ai oublié de faire une photo de ma sortie. Donc, ça en fait. Mais c'est vrai que cette question, elle est légitime. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux courir et faire du contenu en même temps, vraiment, et vraiment t'entraîner? Surtout toi, qui a, en plus, t'as fait une formation trail, hein, t'es diplômé dans ce domaine-là.
Ouais, j'ai un DU, ouais.
Ouais. Franchement, est-ce qu'on peut vraiment, tu vois, faire les deux en même temps?
Bah, en fait, y a un élément qui est souvent sous-estimé, c'est l'énergie mentale. Et l'énergie mentale est plus limitée que l'énergie musculaire. Ça veut dire que c'est notre cerveau qui va limiter notre capacité à faire un effort. C'est souvent lui qui va saturer avant nos muscles. Et finalement, en fait, tout rentre en compte. Ton sommeil, ton stress, ta capacité d'organisation, est-ce que tu as planifié ta course, est-ce que... voilà. Et en fait, ben, réfléchir au contenu que tu vas faire, sortir ton téléphone, faire attention à pas le faire tomber, ouvrir le Face ID qui va pas marcher parce que t'as la casquette ou que tu transpires et qu'il te reconnaît pas. Même si aujourd'hui ça marche de mieux en mieux.
Franchement, Face ID a tellement progressé, il me reconnaît même avec mes lunettes jaunes. Alors, je vais te dire, je sais pas comment il fait. Est-ce que c'est mes selfies avec toutes mes lunettes jaunes? Maintenant, et je me mets devant, bam, même avec les lunettes, il me reconnaît. Alors, tu vois, j'ai testé avec barbe, sans barbe et tout. Enfin, maintenant, il me reconnaît quasiment à coup sûr. Donc là-dessus, il y a du progrès quand même.
Ça marche même avec les masques, je crois, maintenant. Ouais. Je crois qu'ils ont bien évolué quand même. Mais en fait, tout ça, ça va prendre de l'énergie et puis ça te déconnecte un petit peu de ce que tu es en train de faire. Et moi, j'essaye de ne plus le faire. Tu vois, là, j'ai fait le trail du Cap, 50 km. Et à la fin, je me suis dit, merde, j'ai aucune photo à partager. J'en avais pas. Bah, en fait, j'ai juste mis ma petite sortie Strava et puis j'ai pris un screenshot d'une vidéo que j'avais envoyée à ma femme pour lui dire où est-ce que j'en étais et comment ça allait. Mais c'est tout, en fait. Mmh. Et puis c'est pas grave, en fait. Faut dédramatiser un petit peu de ça. C'est pas grave en fait, tu vois, ça, la publication a marché tout aussi bien. Enfin, voilà, je pense que j'étais un petit peu plus connecté avec l'événement, le moment, et puis de toute façon, j'ai quand même toutes les vidéos YouTube qui me font un souvenir derrière.
Mais enfin, parce que c'est vrai que tu faisais des vidéos YouTube de tes courses, de beaucoup de choses. Moi, je sais que quand je fais une vidéo, quand je fais un truc YouTube, c'est vrai que ça te sort en permanence. C'est-à-dire que t'as tendance à dire, faut que je filme ça, faut que j'ai du matos pour ça, faut que je parle là-dessus, faut que je fasse ça et tout. Enfin, tu peux pas être concentré sur ta course vraiment, quoi.
Non, tu peux pas. Et d'ailleurs, on dit que sur YouTube, alors moi, je continue à le faire, ça, tu vois, pour avoir des souvenirs, en fait. Il y a certaines vidéos, notamment celle du GR20 en 3 jours, que je re-regarde encore, quoi. Mmh. Et ça me fait, enfin, voilà, c'est juste génial, en fait, d'avoir ces souvenirs-là. Mais effectivement, en fait, on dit que il faudrait filmer au moment où t'en as le moins envie. Parce que c'est là où t'es vraiment dans le dur, t'es dans le mal, parce que souvent sur les réseaux, tout est beau, c'est facile, les gens arrivent à tout, ils ont jamais d'échecs, alors qu'en fait, quand le téléphone est éteint, ils tirent autant la langue que les autres, quoi. Et en fait, c'est là où il faudrait filmer pour être dans le vrai, sauf que c'est là où t'as le moins envie. Alors des fois, je me force. Mais des fois, notamment sur la TDS l'année dernière, c'est arrivé que pendant plus de 30 km, et 30 km en montagne, c'est long, je filme pas du tout. Pas du tout. Je sors pas du tout la GoPro parce que j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Et voilà, j'ai pas envie non plus de me forcer tout le temps. Enfin, on se fait déjà du mal sur l'ultra. Si en plus on se fait du mal à filmer, c'est bon, quoi.
Non, mais après, ta dernière photo sur Instagram, alors au moment de la diffusion, ce sera peut-être pas la dernière photo, là. Tu parles de quoi? D'un moment de détresse, là. Cette détresse dans le regard, c'était quoi cette course?
Bah, c'était le Trail du Cap. Alors, le Trail du Cap, c'est un trail qui est ultra sentimental pour moi, parce que mon père est décédé d'un cancer du poumon. Et il avait un souhait, c'était qu'on jette une partie de ses cendres à la pointe du Raz, parce que, avec le vent, en fait, ses cendres allaient nous revenir dans la tronche pour qu'il puisse nous faire chier une dernière fois. C'était son petit truc qu'il aimait bien pour nous faire marrer. Et en fait, ce Trail du Cap passe par cette pointe du Raz. Et cette année, depuis l'année dernière, ils font une version 50 km. Il y a aussi un 31-14 et donc l'année dernière mon fils est né ce même week-end-là, donc j'y suis pas souvent à ce trail-là maintenant, mais c'était la première fois que je faisais ce 50, et en fait sur la dernière partie, il y a une portion où t'as de la boue mais à n'en plus finir, et parfois même jusqu'aux genoux, enfin c'est vraiment et moi j'aime pas la boue, j'aime pas ça. Pourtant, tu vois, tu fais du trail, tu sais que tu vas en avoir, mais je sais pas, je trouve pas ça. C'est pas, j'aime bien courir, quoi. J'aime bien courir sur un single avec un petit peu technique. Là, je m'amuse, quoi. Où t'as de la mer qui est à côté de toi, puis où tu sais que tu vas dévaler une pente. Enfin, là, je m'amuse vraiment. Mais dans la boue, je m'amuse pas, en fait.
Non, mais donc, personne s'amuse dans la boue. Hein.
Ouais, j'ai des copains qui me disent qu'ils aiment ça. Alors. Je sais pas s'ils aiment ça pour faire genre.
Ou alors c'est qu'ils ont fait beaucoup trop de cross dans leur vie et qu'ils aiment la boue du cross.
Peut-être. Ouais. Et du coup, sur la fin du parcours, c'est ça. C'est beaucoup de boue. Et j'avais cette lassitude, cette envie d'être à l'arrivée. Et puis, quand j'ai revu cette photo, je dis, ça se voit que j'en avais un peu marre. Ouais.
Alors, si tu veux éviter la boue, tu viens en Auvergne. Moi, je te garantis, là, tout à l'heure, j'ai repéré en vélo le chemin du trail de ce week-end. C'est sec, mais alors, comme c'est plus sec que ma table en bois, là, c'est-à-dire, je peux taper dessus tant que tu veux. Le vélo, ça rebondissait dans tous les sens. Il y a juste un tout petit passage où il y a une espèce de truc d'eau. Sincèrement, il peut pleuvoir tant qu'il veut, tu vois. Donc, si ce week-end tu viens en Auvergne, nous on est super sec. C'est là une grande différence avec la Bretagne, même s'ils annoncent de la pluie. Tu vois, c'est tellement sec que là-dessus tu viens courir au sec. Donc, je te lance l'invitation. T'es déjà venu courir en Auvergne ?
Non, jamais. Alors, je devais venir cette année à l'Ultra Trail Puy-Marie-Aurillac, ouais. Mais finalement, j'y serai pas parce que j'anime un trail le lendemain. Et puis faire un ultra départ à minuit, arriver le samedi fin de journée, puis animer un trail le lendemain en Bretagne, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai annulé ma participation, mais j'adorerais venir.
Ouais. Ouais, puis alors, remarque, c'était un beau. Là, franchement, alors je l'ai pas fait, mais vu le décor, etc., t'es vraiment, t'as le maximum, tu vois, t'es le sommet de l'Auvergne et tout. Enfin, Faut que tu viennes un jour, faut que tu viennes.
J'y viendrai, promis.
Et puis un jour, bon, tu viendras faire VVX ou j'en sais rien quoi, tu sais, où il y a des, c'est la course qui grimpe, qui monte, etc. Même si moi, j'y mets pas les pieds, question personnelle, mais c'est une très belle course à travers les volcans, etc., avec des gros sponsors. L'an dernier, il y avait beaucoup de pros qui étaient venus, y compris un certain petit Kylian. Je sais pas si tu as entendu parler de ce mec-là qui fait du trail.
Vite fait. Je m'appelle.
Ouais, très vite fait, tu vois. Bref. Les gars, ils avaient fait ça tranquillement. C'était une parenthèse, mais c'est vrai qu'en plus, le parcours est magnifique. Je le dis, hein, le VVX fait partie des courses. On a plein de courses en Auvergne là-dessus, sur des trucs comme ça. Le Vulcain et tout. Si tu veux venir en Auvergne, tu auras vraiment le choix. Alors, t'en as qui sont plus durs que d'autres. T'en as des dans la neige, etc. T'as un terrain, toi, tu m'as dit, les singles, où t'aimes bien que ça avance un peu, etc. T'as dit que t'aimais pas la boue. Je te demande pas si t'aimes la neige, parce qu'en Bretagne, la neige, vous en avez pas trop. T'as fait quand même, les Alpes, t'as parlé de la Corse, t'as couru dans les Alpes, t'as couru... c'est quoi tes terrains préférés, vraiment ?
Alors moi, j'adore la descente, la descente technique, là où c'est engagé, où il faut y aller, j'adore ça, vraiment. C'est là où je prends un kiff monstre. J'aime cette sensation de vitesse, et puis j'adore aussi regarder le regard des gens quand tu passes à côté d'eux, et puis ils sont là, waouh, comment il fait pour aller là-dedans. J'adore ça. et en fait, c'est vraiment là que je prends du plaisir, autant sur, par exemple, à La Réunion. Quand j'ai fait le tour du Piton des Neiges en off, j'ai fait un petit 60 bornes autour là. Les montées, je les ai vraiment subies, hein, parce que c'est les montées à La Réunion, c'est quand même raide, c'est technique, etc. C'était compliqué. Mais dès que j'arrivais en fait au col, on pourrait se dire, ah, tu prends une petite pause, hein, arrivé en haut. Bah non, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de descendre et de me faire un plaisir monstre dans cette descente. Et d'ailleurs, même sur la TDS, la dernière, toute dernière descente. On pourrait se dire, pff, purée, 130 bornes dans les pattes, quasiment, t'en peux plus, t'as plus envie. Et ben non, j'ai couru là-dedans, vraiment, avec un grand plaisir. Moi, c'est ça, vraiment, mon grand plaisir. C'est ces singles aussi de sentiers côtiers où t'as à peine la place de doubler. Et puis, c'est un petit peu technique, mais pas trop, tu peux courir. Ça, j'adore. Vraiment.
Ouais, t'aimes courir, quoi.
J'aime courir. Ouais, j'aime ça. C'est, en fait, avant, j'étais vraiment dans une optique de terminer en bonne santé. Et puis, depuis que j'ai progressé un petit peu, modestement, hein, je suis coureur du ventre mou, comme on dit, hein, et ben, d'avoir cette capacité d'aller vite, d'avoir ces sensations de vitesse, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Et si je pouvais aller plus vite, si j'étais, je prendrais encore plus de plaisir, je pense.
C'est quoi ton entraînement ? Ça ressemble à quoi, ta semaine type ? Une semaine type de François, comme ça ressemble à quoi ?
Alors, en dehors des... Juste avant ou juste après une course, j'ai 6 entraînements par semaine. Donc, c'est quasiment donc tous les jours, sauf le dimanche. Enfin, en réalité, je me laisse un jour de battement pour au cas où, au cas où rendez-vous, au cas où pas envie, au cas où si, au cas où ça. J'ai le droit à un joker. Et en règle générale, j'ai on va dire une sortie footing. Souvent, c'est le lundi. Après, le mardi, ça va être une séance de crossfit, mardi matin. Le mercredi, j'essaye de faire un petit peu de qualité avec du fractionné, que ce soit enfin de l'intervalle en côte, en plus ou moins long, sur des terrains vallonnés aussi, plutôt en type fartlek. Le jeudi, je refais une séance de crossfit. Le vendredi, ça va être une séance footing, et le week-end, ça va être une sortie qui va être un petit peu plus longue. Et des fois, en fait, la sortie longue, je la fais le vendredi pour éviter de grignoter sur le temps familial.
Ouais, c'est ce que je fais aussi. Le vendredi, c'est là où je place les sorties les plus longues. Surtout depuis que je fais du vélo, où les sorties sont encore plus longues, je les place le vendredi ou le lundi, qui sont les moments en fait où ça m'évite de partir 4 heures ou 5 heures le dimanche matin, hors course qu'il peut y avoir et tout. Là, je vais faire une course au week-end, une course au week-end d'après, mais hors course comme ça, j'ai à peu près la même stratégie en fait, de dire je place des petites sorties le dimanche quand tout le monde dort. En plus, j'attends le printemps avec impatience, ça ressort au lever du soleil. Quand je me réveille, tout le monde quand moi je rentre, tout le monde se lève, je suis content, tu vois, je dis ah bah cool. Des fois j'amène même les croissants, ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait quand même un sacré volume, je veux dire. je dis pas que ça fait pro, tu vois, mais c'est presque athlète pro, en fait.
C'est vrai que ça fait beaucoup, et pourtant, je suis, enfin, encore une fois, je suis pas un athlète élite. J'ai toujours fait du sport. Ça fait partie de ma vie. Quand j'en fais pas, on me dit va en faire.
Ah, ça sent ta femme, ça.
Voilà, exactement. J'avais oublié de rajouter le vélo, mais le vélo, en fait, je l'ai oublié parce que en ce moment, j'en fais pas parce que c'est l'hiver et j'ai le syndrome de Raynaud, ces doigts qui deviennent tout blancs quand il fait froid. Donc l'hiver, c'est compliqué pour moi d'aller faire du vélo et j'ai essayé le home trainer, mais je trouve ça infâme. donc ça m'a pas convenu du tout et pourtant j'ai un petit côté un peu geek et je m'étais dit que sur Swift ça allait me plaire, mais en fait pas du tout. Mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que c'est loin d'être venu du jour au lendemain et quand j'ai commencé le trail, je m'étais dit je vais faire du triathlon pour cumuler plusieurs sports pour progresser en course à pied.
Ouais.
Quand dans mon club de triathlon, on avait deux séances de fractionnés par semaine. Et donc, moi, je n'avais jamais fait de fractionné ou très peu, enfin, voilà, mis à part les 3x500 du lycée. Hein, je ne faisais pas de ce genre de séance, bingo, périostite. Donc, aujourd'hui, j'arrive à l'encaisser, mais ça a été long. Et puis, voilà, là j'ai fait 50 km dimanche, le week-end d'avant j'avais fait 43 km sur un dernier homme debout, le mardi j'ai plus du tout mal aux jambes quoi. Donc je pourrais aller courir, j'y vais pas mais je pourrais.
Ouais. C'est quoi ton volume de kilométrage ou de temps? Je sais pas si tu regardes plutôt le kilométrage ou le temps, toi tu es plutôt team temps ou team kilométrage?
Alors, je regarde pas trop les stats, les données. Ça c'est pareil. Au début, je mettais pause quand j'étais un feu rouge, tu vois.
Oh.
Ouais, vraiment, j'ai fait ça. Maintenant, j'en ai plus rien à cirer. Et quand je vois quelqu'un le faire, je me dis, tu changeras d'avis un jour, tu feras plus ça bientôt. Et en fait, je regarde très peu les données, les stats. Pourtant, j'ai tout le matériel qui me permet de le faire. Mais en fait. J'utilise l'application Run Motion Coach pour m'entraîner et j'essaie de suivre scrupuleusement ce qui est mis tout en adaptant un petit peu en fonction de ma forme du jour et de mon planning. Voilà, quand on me dit tu fais 45 minutes, je fais 45 minutes. Quand on me dit tu fais 1h30, je fais 1h30. Quand on me dit tu vas faire 10 km, je fais 10 km. Je suis
okay,
mon côté militaire qui revient pour le coup.
Alors que moi, tu vois, il me dit va faire 45 minutes. Enfin, si je fais une heure ou tu vois un truc comme ça, enfin, je le dis, moi, je suis très indiscipliné. Je suis très. Alors si quand l'entraîneur du club faisait un plan marathon, tu vois, j'essayais de suivre vraiment pour caler, parce qu'en plus après, il y avait les séances de club et tout. Tu vois, j'essayais de me caler. Mais maintenant, le matin, tu vois, je donne l'anecdote parce que c'est couillon, mais hier matin, je pars pour 5 km. Puis au bout de 5 km, je me dis oh c'est cool, tiens, il y a le challenge marathon pour tous, faut faire 12. Allez, je vais pousser, je vais regarder si j'ai l'heure. Hop, on m'appelle pas à la maison pour me dire que c'est la cata, tu vois, ou tout. Hop, je regarde 12, je dis, oh, je pourrais faire un petit 13e, aller chercher du pain, etc., tu vois. Mais alors vraiment, aucune planification dans ce sens-là. Et, Run Motion Coach, j'avais testé à un moment donné, j'ai même eu, je les ai eu dans le podcast, je pense que toi aussi tu les avais eu. Il y a un bout d'un moment, tu sais, le côté ordre. Et c'est là où on n'est pas fait pareil. Moi, au bout d'un moment, ça me dit, il faut faire ça. Je dis, aujourd'hui, j'ai pas envie, tu vois. Ce truc-là, ça me plaît pas, tu vois. Mais, comme je cours tous les jours, je trouve un remplaçant, tu vois, je fais d'autres trucs, etc. Mais c'est si je te parle de ça, c'est parce que j'ai des gens, des fois, qui me disent, tu vois, j'ai des séances à faire, type du fractionné. J'ai pas envie de les faire, etc. T'as une astuce, toi, quand dans ce genre de jour, tu sais, où ton run motion coach, il dit, il faut faire, je sais pas, 3x2000 et que t'as pas trop envie, tu l'as fait quand même?
Non, alors des fois en fait il faut différencier l'exception et que l'exception devienne pas la règle. C'est que c'est pas parce que t'as pas envie que tu dois pas aller le faire, et de faire des choses que t'as pas envie, ça t'aide et ça te renforce chaque jour à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé que t'allais pouvoir faire un jour. Donc ça c'est aussi de trop s'écouter parfois, et puis bon c'est pas non plus Surtout dans le sport, enfin voilà, faut quand même l'entraînement c'est régresser et progresser c'est récupérer. Donc quand on régresse, on se fait un peu mal quand même. Et si tu t'écoutes ton corps et que t'as pas envie de te faire mal, c'est compliqué dans le sport quand même pour progresser. Donc si j'ai vraiment vraiment pas envie, ce que je fais c'est que j'inverse. Je me dis aujourd'hui je vais aller faire un footing et je le ferai demain. Il y a quelque chose qui est aussi avec le CrossFit, ça c'est quelque chose qui est fort et c'est un conseil que je donne souvent, c'est l'engagement en fait. Quand tu t'engages là pour aller au CrossFit, tu as une application, tu réserves ton créneau, tu y vas, il y a 12 places. Tu sais que si tu n'y vas pas à la séance, tu as piqué la place de quelqu'un quoi. Et ça en fait c'est pas cool déjà pour la personne, et puis en plus toi bah tu as tes séances du jour, tu l'as flingué, tu n'iras pas. Donc s'engager avec soi-même, c'est important de se dire je vais y aller, je vais le faire quand même, et puis en fait quand on a terminé, on est content, on est fier de soi. Alors si c'était 45 minutes et qu'on a fait que 20 minutes, c'est pas un drame, hein. La Terre continuera de tourner, on aura quand même été faire notre petit sport et tout ira bien. Mais attention à ce que l'exception ne devienne pas la règle, quoi.
Ouais, non mais t'as entièrement raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour progresser aussi, il faut savoir aussi pourquoi tu le fais, pourquoi c'est important de le faire, pourquoi ces fameuses séances de vitesse, elles sont là, en général, elles servent à quelque chose. Enfin, après, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de l'explication, tu vois. Il y a peut-être ça aussi. Je pense que, ou en tout cas, de se rappeler pourquoi ces séances-là sont importantes, de les faire et tout. Et puis, il y a des moments aussi dans l'année. Je sais pas, t'as une période de l'année préférée, toi, au niveau de la météo?
Ouais, c'est le printemps. Le printemps, c'est fabuleux. J'adore cette période-là où il fait frais, mais pas trop chaud.
Tu il vois, fait méchant en Bretagne.
Pardon. C'est jamais très chaud. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence à être un petit peu envahi en Bretagne et que l'immobilier a pris 40%. C'est parce que partout ailleurs, ça va devenir le Sahara et puis chez nous, il fait encore frais.
Ah, mais ça, c'est, je te garantis. Hein. Alors là, la différence de température, j'étais surpris quand je suis venu à Rennes pour le 24 heures. La différence de température. Il y a deux trucs qui m'ont surpris. La différence de température, l'humidité globale. Mais j'ai de la famille qui a. T'es où en Bretagne, toi?
À Quimper, donc vraiment au bout.
Oh, oula, ouais, c'était dans la mer, quoi. J'ai la famille qui est à Lannion. Tiens, un truc où il y a une boîte avec fruité qui a des centres de recherche. Et la différence, c'est que c'est toujours humide. Tu sais, c'est le sol le matin, même en plein été, c'est toujours l'humidité. Donc j'imagine à Quimper, c'est pareil. Ce qui m'a surpris aussi, c'est le jour par rapport à l'Auvergne. Il se lève pas à la même heure en Bretagne. Il y a un décalage qui est énorme, mais vraiment énormissime. Et moi qui cours le matin, c'est super surprenant parce que le matin, je me réveille, je regardais par la fenêtre, j'ai dit, mais chez moi, il fait jour normalement à cette heure-là pour aller courir. Alors que vous, avec quand vous êtes tout au bout, c'est pas le cas. Et ça m'a vraiment surpris. Mais bon, après, c'est une plaisanterie, l'histoire de la. Mais je pense que dans le futur, c'est un avantage. Hein. Franchement, c'est un avantage d'avoir l'humidité, de la douceur, etc. Pour tous ceux qui n'aiment pas courir dans pleine chaleur, ma boulangère, elle adore venir en Bretagne. Et l'été dernier, elle a quand même trouvé qu'il faisait trop chaud. Donc, il va falloir que vous trouviez un moyen de régler la température parce que sinon, il y en a certains, ils ne veulent plus monter.
Il faut aller dans les Côtes d'Armor. Hein. C'est peut-être le coin le plus frais qu'on ait encore. Ouais, parce que la Manche qui est ultra froide. Les différences de température de l'eau, c'est aussi incroyable, hein, vraiment. Hein, quand tu es en haut, elle est vraiment froide. Quand tu vas côté baie de Dornenay, pour le coup, c'est quand même plus agréable, quand même, hein, toutes ces températures, vraiment.
Ah ben, je te confirme, moi, les fois où je vais à Lannion, me baigner à Lannion, Perros-Guirec et compagnie, c'est beau, franchement, c'est beau. Pour courir. Par contre, tu disais tout à l'heure, c'est une magnifique terre de région, de culture et tout. C'est-à-dire qu'il y a des magnifiques paysages. Toi qui organises une course, en plus, on va en parler de ta course, mais il y a vraiment de quoi faire des super trucs. Tous ceux qui sont en Bretagne qui écoutent, en fait, ils me disent tous, ouais, les chemins côtiers, il y a ça, etc. C'est un super territoire pour s'amuser.
Bien sûr, et pas que sur le sentier côtier. Moi, je travaille avec Destination Cœur de Bretagne pour promouvoir l'intérieur aussi des terres. Alors oui, j'organise une course qui est principalement en bord de mer, parce que c'est là où je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et puis qui va faire venir des gens aussi, ouais, de très loin.
Les touristes ont envie de voir la mer. Attends, moi, si je vais en Bretagne, je vois pas la mer, je dis remboursé, hein. Je te le garantis, hein, je repars.
Mais quand tu viens pour 15 jours et que tu viens en vacances, allez, on va dire à Concarneau, dans des villes comme ça et qui sont vraiment bord de mer et que tu as envie d'aller te faire une sortie à l'intérieur des terres, il y a vraiment aussi de très belles choses à faire. Je pense à Huelguat avec toutes ces pierres qui sont vraiment magnifiques à l'intérieur des terres, enfin, ou les Monts d'Arrée. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a l'Ultra Trail des Monts d'Arrée d'ailleurs qui existe. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire aussi dans les terres, mais c'est vrai que ce GR34 qui part du Mont-Saint-Michel qui va jusqu'à Saint-Nazaire est vraiment magnifique du début à la fin.
Bon, on va dire un mot sur ta course. Pourquoi tu es devenu organisateur de course en fait? C'est encore une idée comme ça? Tu t'es dit, tiens, ça serait cool, ou t'avais un autre truc qui, comme ça?
Alors, l'histoire de la course, c'est quelqu'un qui me suivait, qui m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on organise cette course? Enfin, voilà, qu'on se fasse un petit off. C'était juste après le Covid qu'on a organisé ça. C'était en 2020. Et puis, moi, tout de suite, un petit peu la folie des grandeurs, j'ai dit, ouais, carrément, allez, c'est parti, on y va. Et puis, vas-y que je te trouve des partenaires et vas-y que je te prends une arche et je la mets dans le jardin de ma mère. Et j'ai trouvé des lots finishers, des lots avec des partenaires qu'on a fait au tirage au sort. Puis, j'ai fait payer 10 balles pour faire 140 bornes avec, en fait, tu payais juste le barbecue de l'arrivée, quoi, en gros. Et en fait, on a passé un moment incroyable, un moment vraiment super sympa. Et puis, après 2021, année qu'on connaît tous, hein, qui a été l'année un peu blanche pour les événements. Bon, ça s'est pas fait, mais il y avait pas mal de gens qui me disaient, bon, quand est-ce que tu la refais? Ça doit être trop bien d'avoir ça. Et en fait, le parcours, il est presque évident. Parce que c'est là que j'ai grandi, hein. C'est la presqu'île de Crozon, j'ai vécu 20 ans là-bas, ma mère y habite encore. C'est une terre que je connais très bien, c'est là-bas que je m'entraînais, que je courais, que j'allais à la plage, que enfin, bref, je l'ai fait en long, en large, en travers, en scooter, en vélo, tout ce que tu veux. Et le parcours, il est c'est une locale qui m'a dit cette phrase, le parcours, il était juste évident, il fallait juste que quelqu'un prenne le pli de l'organiser. Mmh. Et c'est pas simple à organiser. Parce que Natura 2000, Conservatoire du Littoral, Parc National Régional, Office National des Forêts, ils sont tous là.
Ouais, tous. Je me doute. J'ai entendu parler de l'ONF sur d'autres courses. J'ai compris que c'était pas facile.
Voilà. Donc, t'es soumis à des dossiers de réglementation, des demandes d'autorisation. Il y a 11 communes que tu traverses sur le parcours. Donc, forcément, tu vas avoir 11 maires qui te disent, mais ils font ça en combien de jours? Il leur faut quoi? Enfin, ils vont faire ça, mais tout seul. Enfin, et même la nuit, ils courent la nuit. Vraiment, ils courent la nuit. Bah oui, oui. Donc, enfin voilà, c'est quand même complexe à organiser. Faut se dire que nous, on baigne dedans, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui connaissent pas le sport encore. Donc, il a fallu aller convaincre, être pédagogue aussi, parce que rassurer. Là, j'ai même eu la question. Et quand un trailer croise un randonneur, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, on lui met un coup d'épaule. Hein, ouais, enfin, ouais, c'est des questions assez surprenantes.
Non, mais ça, c'est quelqu'un qui connaît pas le truc, parce que le vrai problème, c'est trailer et cycliste. Et tu vois, enfin, soyons honnêtes. Moi qui fais partie des deux mondes, j'ai dit l'autre jour en blaguant, j'ai dit avant quand je courais, je disais bonjour à un cycliste, il me répondait pas. Maintenant je croise le même cycliste, je lui dis bonjour et il me répond. Je me dis il y a un truc, tiens, il y a un truc. Et un jour j'ai même râlé, tout le monde a rigolé, mais il y a un mec qui me double en vélo, il me regarde, il me fait bah bon courage, hein.
Excellent. Ouais, c'est un vrai monde, hein. Le cyclisme, ouais c'est vrai. Donc non, il a fallu convaincre, et puis après il a fallu aussi être novateur aussi dans ce monde de l'ultra, parce qu'il y en a commencé à en avoir beaucoup, et maintenant en fait tu peux pas décorréler l'organisation d'un événement avec la compétence de savoir faire du marketing et de vendre ta course pour que les gens y viennent. Et il faut avoir aussi une mission, une raison profonde. Pourquoi est-ce que tu organises cet événement? Et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai passé un DU Trail Running avec notamment une option marketing, événementiel dedans. Et j'ai été vraiment, alors je vais pas dire choqué parce que c'est un peu fort, mais surpris de cette vision qu'ont les trailers montagnards pure souche, un peu hautaines de ceux qui ne sont pas en montagne, quoi, les coureurs des plaines. Et pour certains, c'est pas du trail, quoi, vraiment. Profondément, en fait, ça devrait avoir un autre nom, quoi. J'ai découvert, en fait, ça. Moi, j'adore la montagne. Je considère évidemment que c'est du trail. Je considère évidemment que les autres régions où tu cours sur les sentiers, c'est du trail. Et j'ai été surpris que tout le monde n'ait pas cette vision-là. Donc, je me suis dit, il faut que j'organise un événement qui fasse venir des montagnards sur les terres bretonnes pour leur montrer que c'est bien du trail et qu'ils vont chier au bout de,
comme les autres.
De 70 ouais. Montées-descentes, que ça va être compliqué pour leurs jambes, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a un débat sur le trail. Est-ce que l'urban trail est un trail? Je t'ai pas dit, j'ai des questions à la con, mais aujourd'hui...
Il a osé me lancer là-dessus.
T'avais pas lancé le sujet. Parce que alors, si les montagnards trouvent que le trail en Bretagne, c'est pas du trail, trail en plaine, après, non, mais après on peut dire, c'est vrai que moi, tu vois, il y a plein de trails qui s'appellent trail en Auvergne, où c'est de la course sur chemin, tu vois, ce que je vais faire ce week-end, c'est un trail, c'est gentillet, le passage technique, il fait 50 mètres, je le passe même avec mes chaussures de course, sans aucun problème, tu vois. Mais bon, après... Mais l'autre jour, j'ai vraiment vu le débat. Il y a vraiment des gens, et c'est en train de se tendre un peu, je trouve, sur Instagram, c'est sur les réseaux, sur ces histoires d'urban trail que certains veulent plus qu'on appelle ça du trail. Et qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, mais je sais pas, t'as un avis, toi, t'en as fait de l'urban trail?
Alors, oui, j'ai déjà fait plusieurs fois le Quimper Urban Nose Trail. Mmh. Et j'ai la chance d'animer 4 conférences là pour le Brest Urban Trail. Et ce sera la première course que mon fils va faire.
Ah, donc, je peux pas dire du mal.
Je peux pas en dire du mal. Mais en fait, je crois que c'est se torturer le cerveau pour pas grand chose. Donner un nom à quelque chose, c'est juste pour qu'on soit tous d'accord de ce qu'on fait et quel est l'objectif de là où on va. Et finalement urban trail, et ben en fait quand tu vois ce mot là tu sais que tu vas être sur la route, que tu vas franchir des escaliers, que tu vas découvrir peut-être des monuments que tu n'as pas l'habitude de découvrir quand tu peux pas y accéder, tout simplement. Tu sais en fait que ça va être un type d'événement comme ça, et puis ben qu'on appelle ça urban trail, urban running, urban ce qu'on veut, l'objectif c'est que les gens savent où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire. Et moi, ça me dérange absolument pas. De toute façon, personne n'est d'accord sur la définition du trail. Qu'est-ce que c'est un ultra-trail? À partir de combien de kilomètres c'est? Moi, j'avais ma définition. C'était à partir du moment où j'avais fait le tour du cadran. Je me considérais ultra-trailer qu'à partir de ce moment-là. Alors que selon les standards, je l'étais bien avant. Mais... voilà,
ça
après.
Ça dépend à quelle vitesse tu fais le tour du cadran, mais tu ne vas pas faire le tour du cadran, tu ne vas pas faire 40 bornes en un tour de cadran, quoi.
Bah, c'est ça. Et puis, bah, là, pour le coup, c'était sur le GRP, les 120 km. Donc, bon, une fois que tu as fait ça, c'est bon, je pense. Et voilà, je n'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter là-dessus parce que les débats où. Tu te tortures le cerveau pour pas grand chose, c'est pas grave, quoi.
Ouais, mais toi qui as fait du marketing, tu le sais que c'est aussi ce qui est les débats, c'est ce qui crée la friction, les discussions sur les réseaux, autour des choses. Tu le sais que, puis y en a qui l'utilisent, qui aiment bien un petit peu ça. Bon, il faut éviter de tomber dans le piège, mais tu sais aussi que c'est ce qui crée le débat parce que sinon c'est un petit peu lisse des fois.
Alors j'adore le débat. Je pense que tu l'as vu passer récemment. Je faisais une petite référence au ratio kilomètres euros, la comparaison. Ouais. Et d'ailleurs certains n'ont pas compris mon message et ce que je voulais faire passer comme message. Et donc c'est bien que d'avoir cette occasion de le repréciser. C'est vrai que j'étais un petit peu agacé de voir ces comparaisons. Kilomètres euros, tu sais, on dit souvent ça fait cher pour ce nombre de kilomètres, 2 euros du kilomètre. Ah ouais, mais en fait si sur un trail tu as une solution pour garder tes enfants, des animations, un low finisher, une organisation qui est vraiment léchée, des bénévoles agréables, enfin tout ce qu'il faut, ravitaillement, enfin bref tout ce que tu veux, versus la galère pour trouver des informations, pas de place pour se garer, pas de solution pour garder tes enfants, bref, à contrario de tout ce que j'ai dit juste avant, c'est pas opportun, c'est pas non, enfin, je veux dire, tu peux pas comparer uniquement le nombre de kilomètres, même si ces deux courses-là font le même nombre de kilomètres. Et c'était juste ça mon propos, c'était de dire comparer l'ensemble. Tu vois, c'est comme si tu comparais une organisation qui est professionnelle avec une organisation qui est associative. Forcément, une organisation professionnelle va avoir moins de partenaires parce que les partenaires, ils peuvent pas déduire ça de leurs impôts. Parce que c'est pas un don à une association. Donc forcément, ils vont en avoir moins. Donc forcément, le prix du dossard va être plus cher. Et en fait, il faut prendre la globalité, la totalité des éléments pour... Et après, par contre, si tu te dis, sur cette course-là, on a eu ces prestations-là, cet esprit-là, et celle sur l'autre, on a eu les mêmes prestations, c'était deux fois plus cher, on peut râler, c'est pas un problème. Mais je disais qu'il fallait prendre l'ensemble des données. Et les débats qui sont constructifs et où on fait avancer les choses, où on fait comprendre des choses, moi j'adore ça. Et j'adore quand les gens ne sont pas d'accord avec moi et me font changer d'avis. J'ai aucun mal à changer d'avis. Je ne suis pas amoureux avec mes opinions.
Le problème, je crois, de ces débats, c'est aussi la présence des labels qui fait monter un peu les tarifs. On le voit un peu parce que c'est vrai qu'il y a des courses au prix du kilomètre, je ne veux pas revenir là-dessus, mais tu te dis, il y a un peu certaines marques, etc. Mais tu sais, ça vient du triathlon avec l'histoire des Ironman, hein, cette histoire-là aussi. Et on l'avait vu, tu vois, par exemple, avec ASO, sur par exemple le marathon du Mont-Saint-Michel. Tiens, tu parlais du Mont-Saint-Michel au début qui a été annulé l'an dernier. La plupart des gens disaient le tarif pour un tel marathon, il est exorbitant. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu assez de participants, ils ont annulé. Alors après, on disait, ils n'avaient qu'à mettre un tarif plus bas, etc. Alors moi, après, je ne connais pas la logique de tarif, de comment ils structurent, etc. J'ai eu la même réflexion à Bordeaux, mais là où c'était le label Ironman qui gérait le marathon de Bordeaux, tu vois, par exemple. Donc, ces réflexions-là, on les entend souvent, parce que c'est vrai aussi que tu as certaines courses où tu vois les tarifs qui enflent un petit peu. Alors, à relativiser, parce que moi, j'ai vu le marathon de Paris, comment le marathon de Paris a enflé en 4 ans, le tarif, le dossard. C'est net, hein. On est vraiment sur des gros pourcentages d'augmentation qui sont rien par rapport à des marathons à l'étranger, parce qu'un marathon de New York à comparer, c'est beaucoup plus cher. Mais peut-être que la prestation de service est un peu différente, parce que quand j'ai eu des invités qui ont fait le marathon de New York, ou alors même des petites courses aux États-Unis, qui m'expliquaient le nombre de ravitaillements, les burgers à la fin, etc., tu te dis aussi, c'est vrai que le niveau de prestation, il est pas tout à fait identique non plus. Donc c'est compliqué de comparer, puis les Américains, ils ont leur spectacle, ils ont le show, etc., tu vois, enfin, c'est vrai. Alors que nous, on a plein de... moi, je le dis comme ça, j'ai plein de trucs où il y a juste la buvette à l'arrivée. Toi, t'as une particularité, c'est que toi, finalement, t'as une organisation qui est vraiment super légère dans ce que tu fais, toi.
Alors, je dirais pas qu'elle est légère, elle est différente, parce que, en fait, effectivement, t'as pas de ravitaillement. Du moins, t'as pas de table avec des choses à manger dessus. Mmh. Mais en fait, c'est une logistique qui est différente, parce que ça veut dire qu'il faut, en fait, les coureurs peuvent apporter, alors, bon, j'ai pas présenté la course, mais elle fait 166 km et 3700 de dénivelé. C'est long, et en plus de ça, il n'y a pas de balisage. Donc, tout à l'heure, je parlais de fatigue mentale. Là, pour le coup, quand tu dois regarder la trace sur ta montre ou sur ton téléphone, là, pour le coup, en termes de fatigue mentale, c'est important. Et donc, et la barrière horaire, en plus, elle est serrée. C'est à 31 heures max pour terminer le parcours.
Mais t'es sadique, en fait. T'es un sadique.
En fait, ça, ma volonté par ça, c'est de niveler le niveau par le haut. De se dire, je vais sur cet événement si je me sens vraiment capable de le faire, si je suis préparé pour y aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai envie de laisser la place à ceux qui sont vraiment prêts pour y aller, et puis de se dire, bon, que en fait, ce soit un réel objectif pour les gens, de se dire, le jour où je serai capable, j'irai. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir sur le sujet de la logistique, c'est une logistique qui est différente, parce qu'il faut se charger d'acheminer les sacs, de les ramener. Si un coureur arrête, faut penser à ces sacs qui sont après, parce qu'il faut lui ramener au point de départ. Donc, en fait, c'est pas plus simple, c'est juste différent. Et puis faut aussi l'organisation de t'as 400 sacs, faut que le coureur, quand il arrive, on lui donne tout de suite, Parce que s'il attend un quart d'heure, bah, ça va le saouler. Et
il va pas passer la barrière horaire, il va gueuler contre l'organisateur, quoi, après.
Exactement.
Il va dire que c'est de ta faute. T'as fait exprès.
Il aurait raison.
Ouais. Non, si t'as 5 tables, si t'as 4 passages, tu fais perdre un quart d'heure à chaque fois, à la fin, ça fait une heure. Alors, il va te dire, attends, j'ai plus que 30 heures, mon gars. Oh.
C'est ça, en fait. Donc, c'est pas plus, enfin, tu vois, il y a tous ces sujets-là, c'est pas plus simple, c'est juste différent. Ça, les coûts, sont, en moins, sont aussi limités parce que souvent, quand tu vas avoir une table de ravitaillement, bon, tu arrives à trouver un partenaire, un Super U, un Leclerc, un Carrefour, hein, ce que tu veux, et tu vas peut-être avoir des tarifs préférentiels contre un peu de visibilité, etc. Mmh. Donc, en termes de coûts, bon, c'est un peu moins cher, mais finalement, c'est pas non plus beaucoup moins que d'organiser un événement plus classique. On a aussi des points d'eau entre chaque ravitaillement. Donc, il y a 4 ravitaillements comme ça où les coureurs peuvent amener leur sac. Enfin, où on se charge d'acheminer leur sac pour qu'ils puissent se ravitailler. Ça leur permet d'avoir exactement ce qu'ils veulent. Ça leur permet de ne pas gaspiller la nourriture parce qu'ils repartent avec ce qu'ils n'ont pas consommé. Ça a des avantages, des inconvénients. Ça, si t'as oublié un truc, bah, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même ou faire des yeux doux à ton collègue à côté qui est en train de manger un sneaker, c'est qu'il te paye un bout. Voilà.
Ou alors tu te transformes en cueilleur, tu trouves un truc à manger sur le chemin en espérant que ça soit une baie qui soit mangeable.
C'est ça. J'ai fait ça à La Réunion. C'était magnifique. Je me souviendrai toute ma vie de ces belles oranges que j'ai cueillies dans un arbre et qui m'ont fait vraiment un bien fou. J'avais jamais mangé 3 oranges d'affilée comme ça. C'est magnifique.
Ça fait penser, j'avais vu que tu as fait un post sur les histoires d'eau parce que faut amener de l'eau, faut quand même, parce que bon, il y a ces histoires là, la déshydratation c'est un vrai problème. Tu peux pas les faire passer par les cimetières en disant dans tous les cimetières vous aurez un point d'eau. Ça marche quand tu es tout seul, mais en off. Mais là-dedans, non. Donc, ça doit être quand même la partie logistique. Et c'est sûr, j'en doute pas. Quand je disais plus léger, c'est vrai qu'en apparence, en tout cas, tu te dis, il y a moins de bouffe à couper, il y a moins de quartiers d'orange à découper, des choses comme ça. Mais tu as quand même la logistique d'avoir les sacs, l'eau, de trouver des... En plus, j'ai vu que tu parlais justement de... C'est quoi? Comment tu l'amènes, l'eau? Parce que t'es pas dans des villages ou des passages comme ça, là?
Si, t'as quand même pas mal de petits villages que tu traverses. Et la totalité des ravitaillements se fait avec des... Donc, il y a 0 bouteille plastique qui est proposée par l'organisation. Et donc, ce qu'on propose aux coureurs, c'est d'avoir des rampes à eau qui sont raccordées au réseau d'eau public.
D'accord.
Et donc, tout ça, c'est faisable, sauf à un endroit qui est le Cap de la Chèvre. Et là encore, on est sur une zone qui est ultra protégée. Il y a un raccordement à l'eau qui est possible, mais c'est sur le sémaphore et c'est un terrain militaire. Donc voilà, demande d'autorisation, tout ce que tu veux, voilà, démarche administrative, c'est en cours. Et si c'est pas possible, ben on fera comme ils font en montagne, hein, une grande réserve cuve d'eau raccordée à plusieurs robinets, et puis on ira comme ça, et puis voilà.
Et en parlant d'eau, t'avais pas un projet de faire une tasse?
Elle est là, juste là. Tu vois, je te...
Ouais, parce que j'ai l'impression que t'en parlais plus beaucoup depuis quelques temps, mais c'est toujours un projet ou c'est un truc que t'as laissé tomber?
C'est un truc que j'ai laissé tomber. Ça aussi, tu vois, c'est pareil. C'est un truc. Je trouvais qu'il n'y avait pas de gobelet de trail qui me satisfaisait. Enfin, du moins à 100%, je trouvais qu'il y avait. Mais d'ailleurs, je trouve toujours. Il y a pas de produit qui est vraiment parfait, qui répond à toutes mes exigences. Et je me suis dit, si je trouve ça, c'est qu'il y a peut-être d'autres personnes qui trouvent aussi. Et je vais faire mon produit comme je l'imagine. J'avais jamais fait de la conception de produit. Et du coup, je me suis retrouvé dans des bureaux d'études à discuter avec des ingénieurs et tout, qui me parlaient de différents grammages de matériaux, d'épaisseur de plastique, quel silicone, quelle quantité, comment je le distribue, etc. Et en fait, j'ai adoré encore une fois découvrir ce monde-là, d'aller dans des entreprises. J'ai eu la chance d'avoir juste à côté de chez moi une boîte qui pouvait me faire ça. Et donc on a fait un premier prototype en impression 3D celui que tu viens de voir hein. En fait le projet en impression 3D n'était pas satisfaisant pour lancer une production en grand nombre.
Ouais.
Et donc il fallait avoir un investissement de créer les machines et les premiers prototypes en silicone plus conséquent, et on parle de sommes de 25 000 euros.
Ouais.
Voilà, enfin de gros chiffres quoi. Et puis donc là, deux options: soit tu te dis je crois fort en mon projet, je vais voir une banque, je trouve un investisseur et je me lance à fond là-dedans. Sauf que moi c'était un projet, un petit side project comme on dit quoi, c'était ouais. pas mon activité principale. Je suis pas vendeur de gobelets quoi.
Bah, après la bière, les gobelets, remarque, il y avait une certaine logique, je veux dire, après on pourrait continuer comme ça, mais
c'était avant, en plus
c'était avant.
et du coup j'ai décidé d'arrêter là, voilà. Donc j'ai mon petit gobelet devant moi avec en impression 3D que je garde devant sur mon bureau pour me rappeler qu'il faut réfléchir un petit peu en tonnoir, et puis de parfois ne pas me foncer tête baissée dans tous ces projets. Et donc ça n'a pas été plus loin que l'impression 3D.
Non, mais après c'est vrai, il faut le dire, là tu rentres dans l'industriel quoi, c'est-à-dire qu'il faut les moules et tout, c'est tous ceux qui ont visité des usines, et puis après il y a les questions de fournisseurs, de trouver les usines, les matériaux, la proximité des matériaux, le coût à laquelle tu peux le vendre, le coût à laquelle tu veux vraiment le vendre et que les gens sont vraiment prêts à l'acheter. Surtout que moi, en plus, alors je trouvais que c'était sympa ton projet, tu vois, et tout. Et après, j'ai regardé dans mes tiroirs, je me suis retrouvé que j'ai plein de tasses pliables, tu sais, que j'ai gagné sur des trails. Alors je me disais, mais attends, s'il me demande 25 balles pour acheter une tasse et que moi j'ai la tasse pliable que j'ai gagnée sur les trails, tiens, je me suis dit, François, là, il va falloir qu'il me trouve un argument. Alors après, je sais que t'es bon en marketing, enfin voilà, tu t'es formé, t'as des trucs comme ça, mais je me disais, il faut quand même qu'il me trouve un sacré argument pour que d'un coup, je veux mettre l'argent dedans, tu vois. Mais bon, c'est fait partie aussi des projets, hein, c'est la difficulté de monter les projets, c'est aussi de trouver des fournisseurs. L'imprimante 3D, c'est pratique pour faire les prototypes, mais quand tu dois en sortir, si tu dois en sortir quelques centaines, ne serait-ce que l'offrir en cadeau finisher de ton trail, déjà qu'une imprimante 3D, ceux qui ont une imprimante 3D à la maison, ils vont se rendre compte qu'ils ont un petit souci pour que ça sorte. En temps, donc tu peux même pas le bricoler chez toi, je veux dire que c'est même pas comme de la bière où vas faire quelques litres dans ta maison, quoi.
C'est ça, c'était vraiment un investissement lourd. Et pour revenir sur le gobelet, je d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a 25 000 balles à me filer, je monte le projet.
Alors d'abord, on va passer d'abord chez moi, d'accord?
J'ai pas de projet de tasse. Je te ferai un lien affilié, t'inquiète pas.
Ouais, d'accord. 50% s'il te plaît, ou au minimum, hein, franchement, ou 70 si t'as un truc.
et en fait, pour clôturer sur le gobelet, en fait, t'as pas de gobelet que tu peux poser avec du chaud ou du froid dedans.
Ouais.
Que quand tu le tiens en haut, le truc il se plie pas parce que tu le tiens. Que tu peux accrocher à ton sac, que tu peux aussi mettre dans ton sac, parce que quand tu mets un truc dur dans ton sac, ben on n'aime pas trop, hein, ça fait des points durs dans le sac, ça fait un peu mal parfois. Donc, moi, j'avais pas de. D'ailleurs, j'en ai toujours pas trouvé de gobelet qui remplit toutes ces exigences.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a des solutions qui sont satisfaisantes, mais il y en a aucune, du moins que j'ai pas à ma connaissance, qui remplissent tous ces critères.
Ouais. Non, mais après, là-dessus, probablement, moi, c'est vrai. Et puis en plus, je me dis, il y a un risque quand tu fais ce genre de produit qui est novateur, c'est qu'après, il faut avoir des brevets pour les faire respecter, etc. Et que c'est assez facile pour les Chinois de les copier. J'ai travaillé dans l'optique il y a très très longtemps, et ils me disaient, mais on met jamais les lunettes en... Parce qu'un Chinois, il peut le copier en quelques heures. Il peut nous copier tous nos modèles en quelques heures. Et à l'époque, Internet n'était pas aussi développé. Et maintenant, je le vois, en fait, parce que il y a quelques années avec ma femme, quand on vendait du thé, on avait acheté des petits trucs, des petits objets. Et le truc de design qui avait fait ça, c'était tellement mignon qu'il y a une usine à côté qui a fabriqué les mêmes et qui les a vendus 10 fois moins cher. C'est-à-dire que nous, on en a acheté 10 ou 20 ou 50 ou je sais pas combien pour un tarif. Et puis d'un coup, on s'est retrouvé à pouvoir en acheter 500 pour encore moins cher. Et en fait, c'était des copies. Et le mec a inventé le produit. Il a fini par couler, ouais. Tout simplement parce qu'il s'est bouffé par l'autre, et avec Alibaba et compagnie. Donc en plus, ça rajoute un risque. Je veux dire, le risque réel quand tu es innovateur comme ça et tout, parce qu'après, c'est super compliqué à faire défendre, même si tu avais le brevet pour défendre ça et tout, c'est super compliqué. Donc c'est vrai que ça fait partie. Dans le numérique, on rigole parce que monter un podcast, ça coûte zéro. On fait ça en quelques heures. Enfin voilà, franchement, là, regarde, on enregistre avec des outils gratos. On va diffuser ça, ça n'a pas coûté grand-chose. Bah, pour dire rien, ça va rapporter un peu de sous. Mais quand tu arrives dans des projets de ce type-là, ça commence. Et déjà, la bière, remarque, c'était le cas parce que tu avais de l'avance de stock, tu avais des bouteilles, tu avais tout un tas de systèmes comme ça. Donc, on rentre dans des projets qui sont un petit peu différents aussi. J'imagine aussi que le trail, enfin, tu as un budget quand même. Ton but, c'est quand même d'arriver à l'équilibrer, quoi.
Ah bah bien évidemment, c'est un projet qui prend un temps fou et puis je suis aux manettes de tout en fait. J'ai des gens qui m'aident sur certains sujets ponctuellement et j'ai eu la chance d'être très bien entouré par des amis formidables qui me donnent un coup de main monstre au moment de l'événement, le week-end de l'événement. Mais par contre, tout ce qui est en amont, donc la préparation, les rendez-vous, les réunions avec tous les organismes du territoire, les politiques, la recherche de partenaires, tout ce qui est logistique, réservation d'un camion, sécurité, etc. Même si sur le sujet de la sécurité, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui est une auditrice d'ailleurs de Kilomètre 42. On salue Delphine.
Ouais. Salut Delphine.
Et qui m'aide aussi sur ce sujet-là, mais évidemment il faut arriver à dégager quelque chose quand même au bout d'un moment forcément.
On n'a pas dit trop parlé de ton podcast finalement, dont tu m'as dit 255 épisodes ou quelque chose comme ça. C'était quoi l'idée de ton podcast quand tu l'as lancé?
Alors, l'origine du podcast, il est né, j'aime bien l'appeler, c'est un fruit du confinement, un fruit du Covid, un des nombreux bienfaits de cette pandémie. En fait, j'ai lancé Café Trailer, c'était un live chaque mercredi soir où je recevais un acteur du sport outdoor, principalement du trail. Et donc, que ce soit organisateur, professionnel de santé, athlète élite, pas élite. Tout type de profil. Et donc, j'ai fait ça pendant un an et demi, chaque mercredi soir. J'en ai pas raté beaucoup. Et en fait, ça a duré à peu près une heure, entre une heure et deux heures. Et il y a pas mal de personnes qui me disaient... j'avais commencé ça en juin. Et au mois de septembre, il y a des gens qui me disent ouais, c'est chouette, mais moi, j'ai pas une heure en fait à rester devant mon écran. Le mercredi soir, je suis pas dispo. Et j'aimerais bien les écouter parce que les invités sont chouettes. Et le principe, c'était à l'origine, j'avais eu cette idée quand j'avais découvert un logiciel qui s'appelle StreamYard qui permet en fait de diffuser sur plusieurs plateformes et que les commentaires de ces personnes-là soient remontés en un seul et même endroit et que moi je puisse les afficher en fait à l'écran et du coup ça permettait aux gens d'avoir accès à des gens auxquels ils n'auraient pas forcément eu accès autrement que par en posant leurs questions qu'ils avaient envie. Et donc je trouvais le concept plutôt chouette et puis après donc j'ai mis ça en podcast, donc ça s'appelait Café Trailer à partir d'octobre 2020, le temps passe et puis à partir du mois de juin 2021 j'ai arrêté parce que tous les mercredis soirs ça devenait fatigant, ça avait cette contrainte de travailler le soir. J'aime pas ça, j'aime bien aussi me prendre des temps de repos à lire un bouquin, regarder une série et de pas avoir cette contrainte parce que je suis aussi pompier volontaire et je prends que des nuits, donc ça faisait déjà plusieurs nuits que plusieurs soirées qui étaient foutues. Et donc en septembre 2021, je me suis lancé le défi de faire un podcast par jour jusqu'à Noël, sauf le dimanche, je m'étais accordé dimanche. Et je voulais aussi l'ouvrir à d'autres sports. C'est pour ça qu'il a changé de nom. Ça s'appelait Café Trailer avant. Maintenant, c'est l'Instant Outdoor. Et ça me permet en fait de recevoir des sportifs d'autres sports, comme tu parlais tout à l'heure de cyclisme. J'ai reçu des navigateurs. J'ai reçu le champion du monde de CrossFit. J'ai reçu d'autres types de sports, des alpinistes, des aventuriers. Et pas forcément tourner que autour du trail, mais toujours souvent dans un objectif de faire des liens et de voir qu'est-ce que chacun peut apporter à l'autre. Quels sont les apprentissages qu'un navigateur peut faire et qui sert à un trailer, qu'est-ce qu'un champion du monde de CrossFit peut apporter à un trailer, etc. Et donc, pour ça, je me suis entouré de, ben, pour faire un podcast quotidien, je me suis entouré de gens qui ont fait des interventions régulières. Ça, ça a été pendant 4 mois. Et après, je suis retourné sur un rythme un peu plus classique, un peu plus réduit à partir du mois de janvier 2022. Et maintenant, je suis entre 1 et 3 épisodes par semaine.
C'est pourquoi 1 et 3, c'est quoi? C'est la variation? C'est quoi? C'est en fonction des invités, en fonction du temps? C'est quoi le...
Alors cette année, j'ai eu un partenariat avec Run Motion Coach et donc je fais un épisode tous les 15 jours de conseil, donc le mercredi. Donc du coup, quand ça tombe la semaine, eh ben, il y en a 2. Et j'ai ajouté aussi des podcasts en solo après des courses où je fais des feedbacks, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Et aussi, quand il y a une actu qui est importante, qui a des enseignements à en tirer, j'essaye de recevoir les acteurs assez rapidement pour pouvoir répondre à cette actu. Par exemple, quand Christophe Nonorg a battu le record de dénivelé en 24 heures, il a fait ça le samedi. Moi, j'ai publié un épisode avec lui le lundi. Ouais. Ça répond en fait à l'actu. Et là, des actus, il y en a. Voilà, je fais pas ça tout le temps, mais ça m'arrive. Donc c'est pour ça que ça varie un petit peu le rythme.
Tu as eu du nez aussi, je trouve, sur... alors j'ai perdu son nom, son prénom, qui a gagné le... Comment il s'appelle? Marmisol.
Beignat.
Ouais, Beignat. Tu l'as eu avant tout le monde, en fait. Enfin, personne n'en parlait quand tu l'as eu.
Exactement, je l'ai eu le premier, je crois, sur mon podcast et en fait on s'est vraiment super bien entendu. Au-delà du podcast, on est resté amis, on s'envoie régulièrement des messages sur WhatsApp et en fait quand on s'est vu une nouvelle fois et qu'il a du coup gagné en fait la diagonale l'année dernière,
ouais,
ça a été une forte émotion parce que moi je l'ai suivi forcément, j'ai couru avec lui, j'ai eu la chance de courir avec lui pendant 15 bornes et puis après en fait après l'événement on s'est vu et puis je lui ai dit écoute vas-y, je te laisse aller répondre à tous les journalistes, tu vas être ultra sollicité, tu vas être ultra pris par toutes les marques, tu vas en avoir plein les oreilles, fais ton truc. Je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, notre échange, notre podcast sera différent des autres parce qu'on a cette relation, qu'on se connaît et que je te poserai pas les mêmes questions que les autres et qu'il y aura quelque chose qui ressortira de différent. Peu importe donc c'est pour ça que je l'ai reçu, je crois peut-être 3 semaines après
ouais.
Que quand il était déjà passé partout quoi. Mais pourtant, ben c'est l'épisode qui a fait aujourd'hui le plus d'écoute sur mon podcast.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est un personnage parce qu'il gagne à 41 ans, gagne cette course. Donc, par rapport aux petits jeunes, et on dit maintenant, il y a de plus en plus de petits jeunes qui arrivent dans le trail, etc., et dans l'ultra. C'est vrai qu'il a un parcours qui est atypique, moi, je trouve. C'est un personnage, en plus, un vrai personnage. Et c'est vrai que moi, je l'avais découvert par ton biais, en fait. Quand j'ai vu qu'il avait gagné, ça a surpris beaucoup de monde. Mais après, quand on regarde le parcours sur les dernières années, bon, ouais, qui est un sacré client, hein, parce que l'UTMB et compagnie, on regarde les classements. Mais c'est vrai que c'est aussi la force du podcast d'arriver à aller chercher des gens qui, bah, des fois, sont pas les plus connus, les plus visibles. Alors, je sais que des fois, on essaye d'aller chercher des gens un peu visibles. Je pense que tu as pris quelques claques, quelques portes au nez. Hein, tu as bien des gens qui ont dit non.
Oui, 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 forcément. Il y a quelques, j'ai fait quelques erreurs aussi, hein, de débutants et puis de façon d'aborder les gens. Certaines personnes qui sont ultra sollicitées, ben, tu les abordes pas de la même façon que tu vas aborder quelqu'un qui vient vers toi, quoi, tout simplement, qui te dit tiens, est-ce que je pourrais passer sur ton podcast? Donc c'est différent en fait ces approches. Et ça s'apprend en fait toutes ces méthodes, ces techniques, et du coup tu fais des erreurs et puis ben des erreurs qui peuvent parfois mettre un petit temps avant d'être absorbées par les personnes.
Voilà, j'ai même eu écho que j'ai failli faire la même erreur que toi sur un invité, mais on pourra le dire, mais on m'a dit oulala, fais le pas parce que François il l'a fait, il a eu des problèmes.
C'est quelqu'un qui a le même prénom que moi ou...
Ouais, exactement. et en plus, j'étais super colère parce que non, mais c'est vrai. Et je peux te dire parce qu'en plus, comme il était blessé, je me suis dit, il y a du temps, du temps, du temps. Et puis on dit non, il y a pas le temps. Attends, il dit qu'il s'emmerde sur son canapé. Et à un moment donné, il a pas le temps. Enfin, voilà. Donc, j'étais à ce moment, et puis on m'a dit, ouais, attends, si Jean-François, il est allé, il a eu un problème. Je dis, bon, ok, on va pas y aller, etc. Bref, ceux qui savent lire entre les lignes sauront de qui je parle. Mais c'est vrai, franchement, des fois, il y a des gens, c'est pas facile de les caler, d'avoir des, il y a des questions de temps, de planning. Moi, je sais, je peux le dire, il y a des personnes qui m'ont dit oui. Notamment pendant le VVX, que j'attends toujours, hein. J'ai envoyé je sais pas combien de messages. Et vous vous rappelez, vous avez dit oui. Et on n'a pas de réponse. Donc ça fait partie aussi. Pour arriver à avoir la. Parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte, mais pour avoir la régularité d'un épisode toutes les semaines, quand tu as beaucoup d'invités et que tu dois trouver un invité par semaine, des fois tu te retrouves un petit peu en disant ça peut être un peu tendu, non, j'imagine, ou tu as toujours de l'avance.
J'ai toujours de l'avance. Là, là je suis même un peu embêté parce qu'il y a eu une période où j'avais presque 3 mois d'avance et c'était trop.
Ouais.
C'était trop parce qu'en fait, ce que racontaient les... Il faut savoir qu'il y a un pic d'écoute à la sortie parce que j'ai une audience qui est assez fidèle, hein, d'auditeurs qui écoutent absolument tous les épisodes. Et en fait, ils l'écoutent principalement dans la première semaine où le podcast sort. Et des fois, en fait, tu parles de quelque chose dans le podcast qui date d'il y a 3 mois et du coup, t'es plus du tout dans l'actu de la personne et du coup, j'essaye de ne plus le faire, ça. Mais bon, c'est des choses que t'apprends avec, avec le temps. Et maintenant, en fait, j'ai moins d'un mois d'avance, donc j'ai 3-4 épisodes parce que j'ai eu aussi à être en flux tendu, d'enregistrer dans la semaine. Et puis de me faire planter en fait parce que l'invité avait zappé et puis de te retrouver le samedi sans épisode j'ai trouvé une astuce j'avais extrait un audio d'un enregistrement sur lequel j'étais passé sur YouTube et du coup j'avais mis cet audio là qui faisait office du podcast du samedi, quoi.
Ouais, moi je vais donner parce que j'ai expliqué dans mon podcast Podcaster Pro qui est maintenant arrêté. Il y a pas longtemps, je me suis retrouvé comme ça dans en panade avec une semaine où je me disais mince, j'ai un problème, j'ai pas d'invité sur 2 podcasts. Puis alors vraiment, et cette histoire là de ah non, je peux pas, je me décommande, j'ai dit d'accord, on décale. Et puis le décalage, il est pas de 3 jours, il est d'un mois. Et là je regarde, et puis une qui m'a laissé qui m'a fait deux lapins, et puis alors coup sur coup, un tout plus attendez, qui répond plus. Et donc, moi, j'ai trouvé un truc que je voulais jamais faire, c'est la rediffusion d'épisodes. Je me suis dit, oh, j'en ai marre des rediffusions et tout. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont redécouvert des invités des tout premiers épisodes par le biais des rediffusions, avec des croisements entre sport et nutrition, qui mettent 42, ils arrivent à voir aussi des choses, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc dans le temps, hein, quand on le dit. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a un grand temps qui est passé sur caler le temps, avoir le temps d'enregistrement. Quand t'as des sportifs, il y a les entraînements, des fois ils ont des courses, les stages, ils sont à droite à gauche, pas si facile que ça à trouver, à caler, etc. Bon, bref, ça fait partie de notre petite cuisine. Je vais pas te demander quels sont tes prochains invités, parce que de toute façon, je ne sais pas quand est-ce qu'on diffuse, donc tu vois, non, je voudrais pas te mettre dans la panade, en fait. Mais plutôt, si dans cette année, t'as fixé, en fait, si t'as un calendrier, tu sais, tu dis, je vais faire telle course, je vais faire, tu vois, si t'as, c'est vraiment un programme structuré ou si tu es un peu au feeling sur les courses.
Alors, sur les courses, j'ai un programme. Sur les invités, j'y vais vraiment au feeling. Tu vois, par exemple, dans les invités que je vais recevoir, enfin, qui vont sortir bientôt, là, on parle début mars. Il y a notre ami Alexandre, casquette verte, qui voilà, là c'est pareil, c'est devenu un copain. Quand il a fait son tour de Stade de France, je lui ai dit, faut que tu me racontes ça, faut qu'on en parle, quoi. Voilà, et ouais. Donc on s'est vu un soir, et puis on a enregistré. Et après, sur les invités, je laisse vraiment la place à la découverte, à l'opportunité. Tu vois, je fais de la petite veille sur les réseaux, et puis. Tiens, il y a quelqu'un qui vient de réaliser quelque chose. Et puis en fait, ça vient naturellement. Après, je découvre un gars sur LinkedIn, puis paf, allez, tiens, il a fait une aventure. Ça m'intéresse de raconter son histoire. Donc, en général, je trouve assez facilement. Et puis quand il y a un peu moins de matière, là, je reviens dans les fondamentaux, c'est donner des conseils pratiques d'experts. Et là, j'ai une liste d'experts qui sont tous pointus dans leur domaine et qui sont toujours ultra bavards pour parler de leur spécialité. Donc, tu vois, là, j'ai enregistré avec Anthony Berthoud récemment sur la nutrition. Et en fait, on a enregistré une heure, mais on aurait pu faire quatre heures. Voilà. Et donc, sur le podcast, j'ai pas vraiment de programme, si ce n'est d'être, encore une fois, sur l'UTMB, essayer d'aller enregistrer des épisodes là-bas, avec un public. C'est quelque chose que j'aime bien faire, d'enregistrer sur des événements, c'est chouette. Ça fait des épisodes un peu différents. Après, sur mon programme de course, je vais en mai. Alors, la prochaine, c'est en avril, sur le Trail de la Bervrac, c'est un 50 km. Après, en mai, je fais mon petit off annuel. Et là, je suis très content parce que c'est pas moi qui l'organise. C'est quelqu'un que tu connais aussi, qui est Thomas Billot.
Ah oui, eh bien, pas dit ça, tiens.
Ouais. il organise la traversée du Jura, un petit off, on va être.
Ah, comme c'est étonnant, Thomas, le Jura et tout. je dis parce que Thomas, hier, je lui ai envoyé une invitation. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va se mettre. Je l'ai vu dans Sport Nutrition et je l'ai invité pour venir dans Kimet 42. Parce que je lui ai dit, t'as fait tellement de trucs depuis l'épisode de Sport Nutrition qu'il faut vraiment que je te réinvite. Donc, je le dis, ça fait partie des gens que. Et puis, s'il écoute l'épisode, il saura que l'invitation a été une vraie invitation. Peut-être que d'ici là, on aura enregistré parce qu'on aura un petit décalage. Mais effectivement, ouais, ça va être sympa le Jura avec lui.
Ça va être super bien. Et il m'a fait l'assistance pour la TDS. Il a fait ça aux petits oignons. Alors, je suis sûr que sa petite organisation sera aussi tout aussi chouette. Donc, on va faire ça en début mai. Après, en juin, je devais aller faire, comme je t'ai dit, l'UTPMA, mais j'irai pas parce que j'anime un trail le dimanche. Donc, c'était compliqué. Je vais faire début juillet avec ma femme qui se met à faire des distances un peu plus longues. Elle fait faire un 37 km, le trail du bout du monde. On va le faire ensemble. En juillet, je vais faire l'UT4M Challenge, donc 4 fois 40 km. Aller visiter tous les massifs autour de Grenoble, ça va être aussi super sympa. En août, je serai à l'UTMB, mais pas pour courir. Peut-être faire la toute première course, celle qui est faite pour les locaux et les partenaires et tout ça. En septembre, je vais peut-être aller, c'est pas encore sûr, en Irlande, faire le Kerry Ultra Trail. C'est 200 km. Après mi-septembre, Grand Raid du Finistère, ma course. Et là aussi, en tant qu'organisateur, c'est presque comme un ultra.
Ouais.
Après, donc il y a la diagonale, mais la Réunion, je sais pas si je vais y aller cette année. Ça fait déjà 2 ans que j'y vais coup sur coup, et j'ai envie de découvrir autre chose, peut-être aller aux Templiers. Là, pour le coup, le reste de l'année est assez libre et ouvert. Mais une chose est sûre, c'est que je ne ferai pas de trail à la saison hivernale parce que j'ai décidé de couper.
Ouais.
À partir de novembre, j'arrête. Je fais du vélo, du VTT, enfin du VTT plus que du vélo d'ailleurs, plus que du cyclisme. Voilà, pour tout ce qu'on s'est dit sur les privilégier sa santé, etc.
Ouais. Et ça te fait un sacré programme quand même, parce que ça fait du kilométrage, ça fait des courses tous les... au moins une par mois, voire deux, voire un petit peu plus. Donc, là, vous avez eu le programme du François Hinault Tour, vu dans toute la France. Donc, notez les dates, vous allez croiser François, vous allez voir le truc. Petite fille, coucou et tout. Et donc, si vous écoutez et vous dites coucou de la part de Bertrand et tout, voilà. Voilà. Non, mais après, un jour, bien sûr, tu viendras en Auvergne. Ce sera un plaisir de te voir passer sur les terres auvergnates. On va terminer sur les liens pour te suivre, parce que là, on a annoncé le tour, la grande tournée. Hein. Je t'ai pas fait de blague sur ton nom, tu vois, avec le vélo, etc. Mais j'aurais presque pu te la faire. Mais Bretagne, vélo, Hino, tu te dis, oh, on doit lui la faire tout le temps, celle-là. Donc je vais laisser tomber. T'as vu quand même.
Enfin, pas. Alors, à ton avis, c'est de la même famille ou pas?
À mon avis, non. Enfin, j'en sais rien. Dis-moi, tiens, allez.
Non. Mon père est originaire des Côtes d'Armor, comme Bernard Hino, mais ce n'est pas du tout la même famille. Sauf quand je suis dans un aéroport ou que je croise des gens que je reverrai jamais.
Là,
je leur dis oui, ça me fait mon petit boost d'ego. Et puis...
Je croyais que tu arrivais à être surclassé dans les avions en disant que tu étais le fils ou le petit-fils. Enfin, tu aurais l'âge d'être le petit-fils maintenant, je pense, parce qu'il doit avoir. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs.
Je sais pas.
il doit pas être jeune parce que moi je l'ai vu rouler. Quand je regardais le Tour de France, quand j'étais sur le bord du Tour de France, je l'ai vu rouler. Donc, tu vois, comme quoi, au niveau âge, on va pas vérifier. On va éviter de dire des conneries, parce que des fois, on dit des conneries dans les podcasts. Après, on est obligé de faire des. J'ai vu un post l'autre jour, tu le disais.
Ouais. Donc,
nous, on l'a dit aussi, il y a pas longtemps. J'ai un épisode où on a dit. Enfin, ça nous arrive. Alors, et puis, c'est un épisode de la mine perf, en plus. C'est drôle. Ou alors, d'ailleurs, on a pris un petit retour de scud en disant ouais, alors là, il y avait vraiment une grosse connerie. Oui, il y avait une grosse connerie. Mais ça arrive, parce qu'on le dit aussi, c'est que moi, je prépare. J'ai pas de questions. On est vraiment dans la passion, dans les trucs, etc. Et des fois, on essaie de repérer des choses, de dire tiens, on a vu ça, ça, etc. Donc des fois, ça arrive qu'on puisse faire quelques petites conneries. Ça nous arrive tous, franchement.
Ouais, et puis je vais être transparent. Et puis quand on me pose la question, je le suis toujours. Si on me demande pas, je dis pas toutes mes recettes, tous mes secrets, mais ça m'a aussi servi à propulser l'épisode. Parce que en fait, quand tu balances un épisode et que tu dis juste ce dont tu vas parler, et ben en fait, ça a pas toujours une portée suffisante sur les réseaux sociaux, et du coup, t'es obligé de trouver des méthodes, des petits subterfuges. Et en fait, le fait de faire des excuses publiques, de dire pardon, je me suis trompé dans cet épisode, j'ai dit si alors que ça, et ben en fait, derrière, les gens vont commenter, vont dire bon, c'est pas grave, on fait tous des conneries. Du coup, ça augmente le référencement. Ça, les gens voient que t'es aussi humain à dire bah toi aussi tu dis des conneries. Ça t'apporte un peu de sympathie aussi. Enfin, alors je dis pas que tout ce que je fais c'est calculé, parce que c'est pas... parce que quand je l'ai fait, ça c'était pas. Mais en fait, je me suis dit après, mais en fait ça a été génial pour propulser le podcast de faire ça.
Ouais.
Et voilà.
Ça sert. Non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, il vaut mieux. La connerie, elle est dite. De toute façon, souvent, on se rend compte après que ça soit diffusé et tout. Donc, autant rebondir dessus. Ça fait partie aussi du métier de créateur de contenu, hein, d'arriver à rebondir dessus, d'arriver à se dire, on va rattraper les choses. Bon, écoute, ma question présente, c'était quand même pour arriver à faire un truc sur dire les liens où on te retrouve, même si t'es pas, dans tes 15 minutes de réseaux sociaux. C'est où qu'on te trouve dans tes 15 minutes?
Eh ben écoute, sur Facebook et YouTube, Instagram, c'est La Planète Trail principalement. C'est là que je partage mes petites aventures. L'Instant Outdoor, j'ai aussi les réseaux qui sont associés, Facebook, Instagram. Là-dessus, je vois plus ce réseau social-là comme un catalogue. Les gens qui vont voir l'Instant Outdoor sur Instagram, ils vont voir tous les épisodes qui sont publiés. Mmh. Et puis, ça permettra d'aller voir lequel ils ont envie d'aller voir. Sur LinkedIn, c'est françois.ino. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur le Grand Raid du Finistère aussi, évidemment, hein, venez. Alors sur la version solo, c'est complet, mais il y a encore des places en version relais. Où est-ce qu'on peut me retrouver sur Strava aussi, François La Planète Trail.
Ah, je te suis pas sur Strava, donc c'est pour ça que je sais pas comment tu t'entraînais, mais je vais rattraper ça. Et puis de toute façon, tu sais quoi, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour te retrouver. C'était cool de t'avoir. Moi, j'aime bien les épisodes entre podcasteurs parce que je le dis, en fait, on partage, on agrandit le gâteau, comme ça on fait découvrir d'autres podcasts. On court suffisamment longtemps les uns et les autres pour avoir besoin d'écouter plein de trucs dans les oreilles. Donc, c'est cool comme ça. Ça permet de découvrir aussi un peu les coulisses, de parler un peu de nos coulisses, de voir un petit peu comment ça se passe, etc. De croiser un petit peu. On sait où on va te retrouver, donc le François Hinault Tour, vous avez toutes les dates. Hein, t'as pas fait une affiche de truc sur ton bus?
Non, pas encore. Ça viendra peut-être un jour. Affiche en 4x3.
En 4x3. Attention, François arrive. En tout cas, écoute, François, je te remercie beaucoup pour toutes les infos. Moi, bien sûr, je mets le lien dans les notes de l'épisode pour qu'on te retrouve. Les épisodes, de toute façon, il suffit de s'abonner au flux. Ceux qui écoutent le podcast, ils savent comment s'abonner à un flux RSS. Franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Le podcast est trouvable partout, même YouTube.
Même YouTube aussi, ouais. Ouais.
Donc comme ça, on peut le trouver de partout. Et je te remercie beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas le nom de l'invité parce que alors là, je peux vous garantir, je n'en ai aucune idée. J'ai pas préparé le nom de l'invité suivant. Mais je sais qu'on va parler de mouvement, de bouger, d'entraînement, de choses comme ça, et peut-être même de belles aventures aussi. C'est pas impossible selon l'ordre dans lequel je vais mettre les invités. Ça sera la grande surprise. Au moment où j'enregistre, en tout cas, je peux vous garantir, je le sais pas. Voilà. C'est la dernière coulisse, je peux le dire dans les coulisses, je sais pas. Merci François.
Merci à toi, à bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.